Bonjour à tous. Oh, les temps de réaction sont très lents ce matin, désolé. J'espère que vous allez bien. Je suis sûr que vous aussi, certains matins, vous réveillez, vous sentez que tout est ralenti. Enfin, moi, souvent, c'est tous les jours, mais plus ce matin. Donc, voilà, je vous préviens, le rythme de la revue de presse sera de ce niveau-là. Ralenti, pas pourquoi, je sens que la machine allait rater. Pour les amateurs de mécanique, en moto ou en voiture par exemple, vous savez quand vous avez, je sais pas, un 4 cylindres qui tourne sur 3, ou un bicylindre en moto qui tourne sur 1, je sais pas, il y a un problème d'allumage, il y a un cylindre qui tourne sur 2, tu vois. J'ai ça ce matin. Il manque. Si j'étais un 4 cylindres, je pense qu'il m'en manquerait 2. Si j'étais un bicylindre, il m'en manquerait 1. Si j'étais un monocylindre, je pense qu'il me manquerait un cylindre aussi. Ouais. Mais non, j'ai dormi pourtant. Non, j'ai pas fait la bringue. Injecteur, bougie. Ouais, merci. Les amateurs de mécanique ici. Tu tournes sur une patte. Tu tournes sur une patte. Salut Lilou, ça va? Exactement. À une époque, j'avais un vieux 4 cylindres japonais de 1972, je crois. Un K2, un Honda, un Ford. Voilà. Et puis c'était une restauration mais qui n'avait pas été faite dans les règles de l'art. Et un jour, je vais à un rendez-vous de motard pour voir une bécane un peu spéciale. Et le mec me dit, mais tu tournes sur trois pattes, toi? Du quoi? Il me raconte, lui. Trois pattes de quoi? Hein, quoi? Tu me cherches? En fait, oui, trois cylindres sur quatre. Il avait raison. Il avait l'air raison. Du coup, j'ai pris un café. Salut, Gioia Ventriglia. Salut, Tantux Tennis. Salut, Old Linux. J'ai pas pu regarder ton live avec Emilien hier soir. Vous avez été chaud sur Valorant? Oui, on a été chaud. On a enchaîné les victoires au début. La fin du stream a été plus compliquée. Emilien, 2 heures de jeu sur certains rounds faisait mieux que moi après 2 ans. Tout allait bien. Tout allait bien. Mais il a été puni par le karma sur la dernière, sur la dernière game. Mais c'est pas bien. Mais c'est pas bien de se moquer. Je me permets parce qu'il s'est moqué. Sous ses airs de gendre idéal, hein? À un moment, il nous a lâché un ult de raise dans la tête du vieux streamer là. Waouh! Donc du coup, car la game d'après, ça a été très compliqué pour lui. Et je lui ai dit, Emilien, c'est le karma, ça. On a bien rigolé en tout cas. Non, c'était une bonne soirée. C'était une bonne soirée. Poum, j'ai rêvé de toi. Cette nuit, c'était chaud. Ok. On faisait un barbecue en plein été. Ah, hein. Bah, en même temps, les barbecues, c'est rarement en plein hiver. Hein. Ok, chaud comme ça. Ok, chaud. Chaud comme ça. Okay. Right. Bon, comment ça va, vous, les beaux gosses? Première fois que je te regarde sur ma TV en écran géant. Ça va, Ariette? Bougez pas. Bougez pas, les amis, je vous mets en mini pause 30 secondes. Ok, j'arrive dans 30 secondes, bougez pas. Pardon. Ah, désolé. Ah, excusez-moi. J'étais avec mon épouse. Alors, vous êtes important, mon travail est important, l'info c'est important, mais mon épouse est prioritaire. C'est assez rare qu'elle m'appelle depuis le taf, donc voilà. Donc, je suis content de l'avoir. Vous allez bien? Ah, c'est un institut de sondage qui appelle Samuel parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi il est en tête des intentions de vote. Je l'aime celle-là. Non, 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 tout va bien, tout va bien. Je l'aime celle-là. D'ailleurs, on va parler des élections à New York ce matin. Puisque pas d'article encore, puisque l'info est tombée trop tard, bien sûr, pour les journaux papier, mais on va les voir sur Internet. Le Soudan, Paco, on en a parlé hier ou avant-hier. Ouais. Mais tu l'as en replay si tu veux. La sensation d'avoir du sable dans les yeux quand on va sur l'ordi de bon matin. Rome, t'as ça toi? Moi j'ai ça. J'ai ça moi en ce moment. J'ai ça. Là ce matin, j'ai l'impression que je me suis roulé dans le sable quoi. Il y a un article sur le site du Monde pour Mamdani. Oh bah, il y a un article sur tous les sites d'info sur Mamdani ce matin. La difficulté, ça va être de choisir lequel. Non, ils font leur boulot quand même. C'est quand même des infos les plus importantes de ce matin. Merci. Je remercie aucun sub, je suis désolé. Salut Benny Wesson. Merci le vilain Mao. Merci Natou. Merci Moumou Reine des Mouettes, je t'ai vu tout à l'heure. Merci à tous les quatre. Merci Camille Over. Merci Universal. Merci Camille Over. Tu as gardé le screenshot du mec qui disait que Mamdani n'avait aucune chance. Ah oui, hier, il y a un mec qui a pop dans le chat, qui était un peu énervé tout seul d'ailleurs, et qui nous a expliqué pourquoi Mamdani avait aucune chance d'être élu. Oui, on l'a. Il s'appelle Eiko Von W. C'était sur Twitch. Eiko Von W. Hier, à 9h55, il est grillé à New York City. Sa popularité est nulle. Le mec vient d'être élu maire. Eiko Von W. Pardon, je suis désolé. Peut-être qu'il est là ce matin. Oh pardon, source t'inquiète, ouais, source Volvic. Waouh, il était très fort celui-là. C'était très drôle. Ah bon, vous allez bien? Comment ils s'informent ces gens-là? Ils ne s'informent pas. Ils ne s'informent pas, tout simplement. Ouh. Oh, c'était bon. J'avais oublié qu'il y avait une personne qui avait dit ça hier. Aucune chance. Non, il a aucune chance. Oh. Ah. Ouh. Ah. Bon, on va peut-être y aller parce que je suis obligé de vous laisser. J'ai honte à 12h30. Ouais. Parce que j'ai un tournage avec DFG. J'avais oublié, je me suis trompé de jour. Je pensais avoir un truc avec une asso cet après-midi pour les jeunes qui hélas, doivent affronter le cancer. Mais en fait, c'est demain. Et par contre, je vois DFG cet après-midi. Alors, en tout cas, je suis très heureux de vous retrouver et je suis très heureux de cette bonne humeur. Bonne humeur. Merci Sickness 995. Merci Lilou, vous savez qui. Vous êtes trop cool. Les gens pleins de convictions sont vraiment les plus marrants. Oui aussi, c'est mon kiff à la Stacarole. Moi, c'est bon. Moi, je privilégie plutôt le doute philosophique. En philosophie, tu apprends que la base de la pensée, c'est le doute. Mais il y a des gens qui sont pas trop. Il y en a qui sont pas trop sur le. Oui, l'association, c'est Aïda, ouais. Il y en a qui sont pas trop sur le doute. Ils sont plutôt sur l'affirmation de leur conviction non-stop à la terre entière. Oui, moi, je pense que. Je vous dis que. Non. En fait, non. Il faudrait que ce type te dise que tu seras pas président en 2027, peut-être que ça peut aider. Je suis en collab avec Aïda, bah, c'est pas une collab, mais on m'a proposé d'enregistrer un message vidéo pour appeler au don pour l'association qui s'appelle donc Aïda pour accompagner les jeunes qui doivent affronter le cancer, et je trouvais ça cool, donc je fais ça jeudi. Voilà. Bon. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Merci Happy Shows. Voilà, je sais pas si on retrime aujourd'hui. Peut-être que je dorme un peu. Puis j'ai un peu de paperasse à faire. Voilà. Donc on verra. Sam, fais attention à tes écrans de téléphone. Quoi ça là? Ça? C'est un dessin. Alors, c'est pas, je pense que vous n'allez pas aller bien loin avec ça, hein. Je pense que vous n'allez pas aller bien loin avec ça. Ah, salut son visage. Ouais, une petite sieste peut-être. Ou alors de la solo queue non streamée aussi. Ouais, je vais très bien, je suis très heureux de vous retrouver, ouais. Non, il n'y a pas que les numéros qui appellent soient diffusés. Ben, moi, j'ai une vie qui est d'une transparence et d'un ennui. Lucas Wa dit, ouais, non, c'est très gentil hein, de vous soucier de moi. Non, mais qu'il y ait des numéros qui appellent et que ce soit diffusé. Ma vie est d'un ennui, si tu veux. Moi, c'est. J'ai ma vie de famille et le boulot, quoi. Donc, ou c'est Hélène qui appelle, mais là, vous avez vu, Hélène m'a appelé. Mes enfants, ils sont trop petits, ils n'ont pas de téléphone. Et sinon, c'est du taf. Bah, et tous les gens avec qui je taffe, vous les connaissez. Enfin, vraiment, ma vie, tu peux chercher, tu vas rien trouver, quoi. Parce qu'il y a juste ça. De temps en temps, je vais courir aussi, mais bon. Je suis pas sûr que ce soit passionnant. Salut, Hellfire. Bon télétravail à toi. Ça me fait plaisir. Salut, Marie Marmotte. Merci, Juxi, c'est trop gentil. Oui, Julien, on a parlé du Soudan mardi ou lundi, je ne sais plus. Mais tu l'as en replay. Bon, allez. Alors, ami TikTok, vous avez déjà le sommaire depuis un petit moment. Là, je vous l'ai mis au début, je vous le mets sur Twitch. Donc, la nouvelle résolution, pourtant, on n'est pas en début d'année. Là, Clamakin me dit que c'est lundi qu'on a parlé du Soudan. Merci beaucoup. Merci, Lucawa, pour le soutien. Et donc, on a pris une bonne résolution hier, malgré le fait que nous ne soyons pas en début d'année. On essaie de faire des sommaires plus courts. Parce qu'en fait, mes sommaires, ils duraient une demi-heure. Un sommaire pour dire l'essentiel de l'actu en 30 minutes. Non, monsieur Étienne. Non, monsieur Étienne. Salut, Tom. Non. Non, monsieur Étienne. Non, monsieur Étienne. Non, un sommaire, c'est un sommaire. Il faut que ce soit court. Hier, on a fait un sommaire court. Ça, c'est cool, ça. Allez, donc un sommaire court. Ça dure une finale de paix. Allez, on y va. N'oubliez pas qu'on est aussi au podcast désormais. Qu'est-ce qui se passe au Mexique, mon Miraim? Quelqu'un me dit, tu vas parler du Mexique? J'ai pas vu là. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi, raconte-moi. Ah, c'est mercredi, en plus, on aura un petit peu de cinéma ce matin. Alors, je vous ai pas mis 1000 actus de côté, mais des infos. J'essaie de privilégier des infos dont on n'a pas encore parlé, des nouvelles choses. La guerre avec les narcos. Ah, ok, je vais suivre ça. C'est intéressant. Ok. Ah, Julien, le jour où le live marchait pas sur TikTok, exactement. Enfin, c'est la caméra qui marchait pas. Mais du coup, t'as pas basculé sur Twitch. C'est pour ça. Désolé. Ok. Alors, on va commencer avec ça. À quand un bras pour le micro? Jamais, ou ouais, le coup. J'aime bien mon petit pied comme ça. Moi, je prends mon pied. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Ok. Voilà. Alors, on commencera en fait par. L'élection de Zoran Mamdani à la mairie de New York. Voilà. Ça s'est passé dans la nuit pour nous, mais comme il n'y a pas d'article dans la presse d'hier soir, enfin la presse de ce matin, la presse écrite sortie en PDF en format papier de ce matin, elle est partie à l'imprimerie hier soir. Donc moi je la lis souvent le soir entre 22h et minuit. Je peux la lire le matin aussi. Évidemment, les journaux hier soir à 22-23h n'avaient pas le résultat de cette élection. Voilà. En revanche, ces mêmes journaux sur leparisien.fr, sur lemonde.fr, sur libération.fr ont pu écrire ce matin des articles sur cette élection. Donc on ira voir ça sur le web, sur le World Wide Web. Ok, première info. Avec donc l'élection de ce maire démocrate qui se présente lui-même comme un socialiste, qui se présente aussi un petit peu, en tout cas ses partisans le présentent comme l'antithèse, hein, le négatif de Donald Trump. Okay? Voilà, il y a Sunshine qui dit mauvaise page. Je crois que Sunshine n'a pas tout à fait compris ce dont j'étais en train de parler. Donc, comme je l'expliquais à l'instant, ça ne peut pas être dans les journaux de ce matin. Le deuxième thème, le voici, les otages français libérés. Et ça, c'est vous qui me l'avez dit dans le stream d'hier soir. J'ai pas compris tout de suite d'ailleurs. Dans le chat, à un moment, j'ai vu Jacques Paris et Cécile Colère libérés. J'avais pas trop la ref parce que je n'avais pas en tête le nom de ces deux otages français en Iran. Bravo Le Parisien, qui est le journal qui consacre le plus de place ce matin à cette libération. Ils étaient détenus, ces deux enseignants, une enseignante et un ancien enseignant, depuis mai 2022, plus de plus de 3 ans, en Iran. Pourquoi ils étaient détenus? Bah, c'est un petit peu mystérieux, Oscar. Il y a des informations dans le dossier du Parisien, on lira ça. Jacques Paris, Cécile Collère, détenu depuis mai 2022, sorti de prison ce mardi soir. Récit de ce qui est joué. Quand on lit l'article, on comprend que eux et ses proches, et leurs proches disent que c'était juste des touristes qui ont été retenus en Iran dans une politique dite des otages pour pouvoir peser sur les échanges, les négociations avec la France. Hein, on vous les rend si vous faites ci, si vous faites ça. Une espèce de diplomatie des otages. Alors que l'Iran, de son côté, affirme qu'il s'agit d'espions. Hein, c'est Bobo qui me demande, qui lui est plus au courant que moi sur cette affaire, que j'avais pas bien suivi. Est-ce que c'était vraiment des espions? Voilà. On lira ce dossier dans Le Parisien. alors ça, c'est un truc dont on a déjà parlé à plusieurs reprises. Révolte Gen Z et One Piece. Dans plusieurs pays à travers la planète, ces derniers mois, il y a eu des mouvements de révolte, de colère, des mobilisations de la jeunesse, de la génération Z précisément, ce qu'on appelle la Gen Z. Dans plusieurs pays, des pays asiatiques, des pays du continent africain, des pays européens, donc dans des pays différents, mais avec des revendications qui étaient souvent les mêmes. Un phénomène extrêmement intéressant. Voilà. Salut, Géounia, c'est gentil. Et donc là, on a une analyse sur un aspect particulier de ces mobilisations de jeunesse, le fait que sous l'étendard de ces mouvements de jeunes dans plein de pays, c'est souvent le drapeau de One Piece, le drapeau de pirate de One Piece, ce qui est assez étonnant. Et on a un spécialiste des questions internationales, qui s'appelle Guillaume Calafa, qui retrace dans Le Monde l'histoire du drapeau pirate, le drapeau pirate des pirates d'autrefois, devenu aujourd'hui l'un des symboles des révoltes de la Gen Z. C'est assez intéressant. On se penchera sur ce drapeau et pourquoi cette génération s'est emparée de ce drapeau comme signe de ralliement. On a déjà parlé hier, mais on va en reparler aujourd'hui. C'est la Une de la Croix qui vous propose un excellent dossier sur la France de Chine. Hier, on s'est penché sur la polémique, sur l'alliance entre le chinois Chine, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le symbole de l'ultra fast fashion des vêtements à des prix très peu chers, mais pour arriver à ces prix qui posent plein de problèmes au vu de l'environnement, des conditions de travail des ouvriers qui les produisent, et puis même de l'empreinte CO2, du fait que ces vêtements partent de très très loin. Donc on s'est penché sur la polémique BHV, puis aussi le fait que sur Chine, on pouvait trouver des poupées pédopornographiques. Voilà. Et la Croix va un petit peu plus loin ce matin avec pourquoi un nombre très important de Français est séduit par Chine. Parce que tout le monde en dit du mal, et pourtant, ça en vend des caisses. Voilà. Tu vois, par exemple, il y a Scream Killer qui dit « Je comprends même pas comment on accepte Shane Temu sur le web français. » La question que pose la Croix, c'est déjà pourquoi les Français l'achètent. Le géant de la mode jetable n'en finit plus de séduire les Français, malgré une empreinte... j'ai un truc qui gêne là. Écologique et social et les scandales à répétition. Voilà. Ces Français séduits par l'ultra fast fashion, malgré les scandales, le géant de la mode jetable n'en finit plus de séduire les Français, malgré son modèle économique et son empreinte écologique désastreuse. L'entreprise chinoise prospère dans une France périphérique, attiré par les promesses d'une consommation à très bas coût, sans être dupe sur la réputation de l'entreprise. Voilà. Donc évidemment, à l'instant, je faisais mine de m'interroger pourquoi les Français achètent aussi nombreux ces vêtements. C'est pour le prix, bien sûr. Il y a zéro suspense là-dessus. Mais la question que pose la Croix, c'est pourquoi les consommateurs ne regardent que ce critère et pas toutes les questions que pose ce modèle économique, quoi. Je vous lis. L'illusionneur, on est juste dans le sommaire là. Voilà. Donc on va lire ça tout à l'heure. Moi, c'est un truc qui me fascine. Est-ce que c'est une révolution, pas une révolution? Vous savez qu'arrivent là de plus en plus les écouteurs, comme les AirPods, mais je crois qu'il y a d'autres modèles, qui jouent déjà ou vont jouer les interprètes. Voilà. Deux personnes, je sais pas, on parlait de la Chine, un Chinois, un Français, tous les deux équipés d'écouteurs qui traduisent, et les deux vont pouvoir se parler et se comprendre. C'est assez fascinant. C'est une forme de révolution, ou pas. Apple, c'est l'info de ce matin, va rendre la fonctionnalité traduction en direct disponible en décembre, parce que ça n'était pas encore disponible en France et en Europe. Ça va l'être. Voilà. Il faudra au moins un iPhone 15 Pro pour en bénéficier. Pratique lors d'un séjour à l'étranger, elle performe hors ligne. On verra ça. Est-ce que c'est une révolution? La question que je pose ce matin, c'est est-ce qu'il est encore nécessaire d'apprendre les langues étrangères? Poum me dit, c'est vraiment bien si ça marche. Effectivement, c'est assez fascinant. Je vous lis en même temps. C'est pas mal. C'est pas mal en vrai. Pas sûr qu'on y ait accès avec les règles de l'Europe. Bah si, justement, l'info, c'est que ça arrive. Parce que Apple s'interrogeait par rapport justement aux règles européennes, et a priori ils ont pris la décision de nous annoncer de nous faire accéder aux produits, quoi. Et voilà, comme dit moi, se soulève malheureusement la question de l'apprentissage, exactement. Ouais. Et puis le mercredi, il faut aussi que ton interlocuteur ait le même système pour comprendre ce que tu dis. Ouais, c'est ce que je disais, ouais, bien sûr. Samsung le fait depuis au moins un an. Oui, c'est ce que je disais aussi. Vous n'écoutez pas, hein. Je disais Apple comme d'autres marques. Je sais que je tousse et que mon propos n'est pas toujours très cohérent parce que je n'ai pas beaucoup dormi, mais écoutez, bordel. Bordel de merde. Un moment. Voilà. Et puis, mercredi, c'est cinéma. Mercredi, c'est cinéma. Et là, alors il y a plein de films, évidemment. Je fais toujours des choix qui sont totalement subjectifs. Voilà. Et là, moi, j'aime bien Predator. C'est en fait cette espèce d'extraterrestre avec des dreads qui se bagarre non-stop, notamment contre des aliens. Voilà. Je sais pas. Moi, ça m'a toujours hypé, ce truc. Voilà. Voilà. Voilà, comme dit Sugar Frog, du grand cinéma. Moi, j'aime bien Predator. Et là, il y a un nouveau Predator. Voilà. Oui, il a des dreads. Mais si, il a des dreads. Une espèce de dread. Tu sais. Voilà. Celui qui n'a pas une gueule de porte-bonheur. C'est pas Schwarzenegger qui disait ça. C'est pas Schwarzenegger qui disait dans le premier Predator qu'il avait effectivement. Ah, putain, la ref! Ah ouais, excellent. Toi, t'as pas une gueule de porte-bonheur. Exactement. Et donc il y en a un nouveau. Voilà. Predator. Badlands à visage humanoïde, le cinéaste Dan Trachtenberg imagine sur une planète hostile. C'est toujours hostile, hein. Voilà. La rencontre d'un prédateur et d'une robot, d'une humanoïde pour être précisément, je crois, qui décide de s'allier dans l'adversité. Donc vous avez une humanoïde, un robot, qui est incarné par Elle Fanning, l'actrice. Qui précisément joue deux robots, deux robots, deux humanoïdes jumelles. Elle joue les deux. Et elle s'allie. Donc, l'une. Suivez, suivez, hein, l'histoire est très subtile. Oui, Elle Fanning. Et donc, l'humanoïde, une des deux jumelles, s'allie. S'allie, fait copain-copine. Copain-copine. Avec un prédateur pour retrouver son autre jumelle. Waouh! Alors, est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est pas beau? Alors moi je veux qu'on lise cet article, je veux qu'on aille voir cette bande-annonce. Non, elle se salit pas, elle est très propre. Enfin non, elle n'arrête pas de se bagarrer, donc elle est sale, mais c'est pas le problème. Non, elle salit, elle se fait copain-copine, quoi. Copain-copine. Voilà, Elle Fanning qui cherche Elle Fanning avec son copain prédateur. Voilà. Ça veut dire quoi des robots jumelles? Ils ont été fabriqués le même jour, exactement. Voilà. Cherchez pas, c'est du cinéma. meilleur message de ce matin, Fudo est à prends ça dans les dents Godard. Merci à toi. Ça mérite un Oscar, ça. Et j'adore cette remarque. Prends ça dans les dents Godard. Je kiffe. C'est très très beau ce que tu viens de faire. C'est très très bien. Moi, j'aime tous les cinémas. J'aime les cinémas d'auteur. J'aime les cinémas d'ARSS. J'aime les cinémas un peu compliqués. J'aime les films ouzbeks sous-titrés en allemand que je ne parle pas. J'aime ça. Et j'aime aussi les films grand public, les films populaires. J'aime tout, moi. Comme en matière de bouffe, d'ailleurs. Voilà. On est dans le sommaire. La flèche n'est pas bonne. Non, c'est tes yeux qui sont pas bons. On est dans le sommaire. Ah, donc, ah oui. Ah oui, c'est parce que la flèche est sur bonjour. Oh, on s'en fout. De toute façon, j'ai deux de tension ce matin. Rej, le gorilla sort de ce corps. J'ai la ref. Oui, la flèche est dans le bonjour. De toute façon, ce matin, la flèche sera jamais en face du bon truc. Hein. Vous inquiétez pas, je suis totalement à la rue là. Hein. Ouais. Arrêtez avec Samuel la flèche. Hein? Vous voyez pas que je suis en dessous, 36e dessous là. Merci Franck, merci Renifleur de paix, de paix. Merci Lukawa, merci Yocomic, merci GPLT69, merci Little Monster, merci Sixtine. Oh, c'est joli Sixtine. C'est toi la flèche, non c'est vous la flèche. Souci de sommeil, non je sais pas, j'ai l'impression de tourner sur un cylindre ce matin, il y a un truc qui va pas. Je crois que j'abuse des bonnes choses. Ok, let's go. Les amis, on va chercher des infos sur New York. Donc, on va laisser tomber ça. On va laisser ça. Ok, là, vous avez rien, c'est normal. Comment il s'appelle ? Hamdani ? Ok, let's go. C'est pas Hamdani, on ne s'écrit pas comme ça ? Je l'ai mal écrit, je pense, non. C'est Mam Dani. Il manque un M. Voilà. Mam. Voilà. Ok, let's go. Actu. Ok, et TikTok, je vais vous mettre la même chose. C'est-à-dire que comme ce matin, les journaux papier, PDF, ne peuvent pas vous proposer des articles sur l'élection. Cette nuit, pour nous, on dormait pendant que les New Yorkais votaient sur l'élection de Mam Dani. À la mairie de New York, eh bien, on va aller chercher ça sur Internet, sur des sites de qualité. Attendez, mais TikTok, depuis tout à l'heure, vous n'aviez pas les articles ? Vous n'aviez pas ça depuis tout à l'heure, TikTok ? Vous n'aviez pas les articles que je vous montrais, là ? Tout ça, là, vous l'aviez pas quand je vous ai fait le sommaire ? Si, vous l'aviez ? Oh, si, non ? Vous l'aviez ou pas ? C'est parti après le fanning ? Ah bah c'est bon, vous l'aviez alors. Ok. Bon bah ça va, vous l'aviez alors. Si, il l'avait. Bah, sauf Morgane. Il y a Morgane de toi et qui ne l'avait pas, mais tous les autres, vous l'aviez. Ok, alors allons voir. Alors allons voir. Désolé. Allons voir donc un article sur Mam Dani. Ah mais non, il faut mettre la flèche aussi. Ah oui, soit carré. La flèche. Oh, c'est dur ce matin. Alors, bonjour. On passe du bonjour déjà à Zoran Mamdani. Et on est à combien ? On est à 34 minutes. Ok, d'accord. Ok, let's go. 34 minutes. Ok, super. Ok, on est ça commence à se mettre en place, ça se met en place. Et TikTok parce que je vous aime aussi, je vous mets la flèche aussi. Morgane de toi, j'adore ce pseudo. Tu régales. C'est bon, on y est. Les amis, on va faire comme si j'étais réveillé. Bienvenue dans la revue de presse. Bienvenue dans la matinée, Étienne. Merci de nous écouter sur Twitch. Merci de nous écouter sur TikTok. Merci de vous consommer les replays, notamment sur YouTube. Merci de nous écouter en podcast audio. Depuis la rentrée, on est en podcast audio sur les Spotify, les Deezer, les Apple Podcasts. Vous êtes incroyables. Let's go. On va commencer par l'élection d'un nouveau maire pour New York, qui n'est pas moi. Hein, puisque moi je me réserve pour 2027, vous savez, qui est un démocrate, il s'appelle Zoran Mamdani, on en a déjà parlé hier, c'est fait, les New-Yorkais, les New-Yorkaises l'ont élu. Alors, allons chercher les articles ce matin, puisque comme ça s'est passé dans la nuit, ça ne pouvait pas être dans les journaux PDF, dans les journaux papier. Ce matin, merci Limone4593 pour ton soutien. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a... Moi j'aimerais bien trouver un petit article dans Le Monde, on m'a signalé un article dans Le Monde... Pour commencer, peut-être. Voilà, il y a 3 heures, let's go. En plus, je suis abonné, donc on aura l'article, parce que parfois les articles sont sur abonnement. On n'a pas le sommaire sur cette scène, c'est pas grave. Ça n'a aucune importance. Zoran Mamdani, le candidat démocrate élu maire de New York. Ok. Celui qui se définit comme socialiste. Ce n'est pas le même socialisme qu'en France. Hein. Le mot socialiste aux États-Unis, ce n'est pas un mot qui est très utilisé. Le parti considéré comme le parti progressiste aux États-Unis, c'est le parti démocrate, et ça n'a rien d'un parti socialiste. Mais lui se présente comme un socialiste. Zoran Mamdani, le candidat démocrate et élu maire de New York, celui qui se définit comme socialiste, l'emporte largement sur son rival, l'ancien gouverneur de New York, Andrew Cuomo, qui avait reçu l'appui de Donald Trump. Le démocrate de 34 ans deviendra le 1er janvier le premier maire musulman de la plus grande ville des États-Unis. Pourquoi il précise musulman ? Parce que lui-même se revendique comme musulman. Et puis la religion en politique aux États-Unis est assez présente. Beaucoup de candidats se réclament de leur religion, notamment chez les chrétiens. Ici, pour le coup, c'est un musulman. Et c'est surtout la première fois qu'un musulman est élu maire de New York. Le candidat démocrate Zoran Mamdani, socialiste et opposant à quoi ? Oh là, oh là, oh là, oh, putain, il y a des messages tellement limites là. Ouais, waouh. Je veux pas aller voir, j'ai les yeux qui piquent trop ce matin. Le candidat démocrate Zoran Mamdani, socialiste et opposant au président Trump, c'est ça qui le rend intéressant aussi, a été élu donc mardi 4 novembre, c'était dans la nuit pour nous. Maire de New York. Bon, c'est quand même quelque chose, hein. C'est quand même quelque chose. L'élu local de 34 ans. 34 ans, c'est très jeune. 34 ans. Ça aussi, c'est intéressant. Devance largement l'ancien gouverneur de l'État, le centriste Andrew Cuomo, le républicain Curtis Sliwa, qui était très, 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 très loin dans les intentions de vote, mais en même temps, New York est une ville un peu particulière, hein. C'est pas les États-Unis, c'est une ville qui traditionnellement vote démocrate. Selon les projections de plusieurs médias américains. Tiens, un message effacé, j'aime bien. Ah oui, Cornflakes, c'est mon ami Cornflakes, oui, je l'avais vu celui-là. Il deviendra le 1er janvier le premier maire musulman de la plus grande ville des États-Unis. Dans son discours de victoire, il a estimé que son élection marquait la victoire de l'espoir sur la tyrannie, tyrannie qu'on prenait Trump hein, dans sa bouche, et montrait à une nation trahie par Trump comment le vaincre. En cette période d'obscurité politique, carrément, New York sera... la lumière. C'est très beau. Le président américain, qui a enregistré deux autres revers électoraux mardi soir, a vite réagi. Trump n'était pas sur les bulletins de vote et la paralysie budgétaire sont les deux raisons pour lesquelles les républicains ont perdu les élections ce soir, selon les sondeurs. Trump n'était pas sur les bulletins de vote. Alors oui, Trump n'était pas candidat à la mairie. Ok, c'est une info assez intéressante. Et la paralysie budgétaire... aurait expliqué ce vote. Ok, très bien. Trump avait tenté de s'immiscer dans cette course d'ailleurs, car Trump n'était pas sur les bulletins de vote, mais par contre il avait essayé de peser sur ce scrutin. Alors ça on n'en avait pas parlé hier, mais c'est extrêmement intéressant. La veille du scrutin, il avait pris parti pour le principal rival de Mamdani, l'ancien démocrate, qui était un démocrate, mais qui n'avait pas l'investiture du président démocrate, c'est pour ça que Le Monde le présente comme un centriste. Qui concourait comme indépendant, l'ancien démocrate Andrew Cuomo. Et Trump a déclaré que vous aimiez personnellement Andrew Cuomo ou non, vous n'avez pas vraiment le choix. Vous devez voter pour lui et espérer qu'il fasse un travail fantastique. Il en est capable, Mamdani ne l'est pas. Voilà. Donc Trump avait clairement pris parti dans cette élection. Voilà. Il avait, Trump, d'ailleurs, fait appel à l'importante communauté juive new-yorkaise, puisque Zohran Mamdani s'est prononcé publiquement et très clairement en soutien au peuple palestinien. Et Trump a déclaré, avec la finesse qu'il caractérise, toute personne juive qui vote pour Zohran Mamdani est une personne stupide. Ce qui est bien avec Trump, les choses ne sont pas très compliquées. Ben, si tu penses comme lui, tu es une belle personne. You're a great person. You're a wonderful person. Tu vois? Ou tu es stupide. Ça, c'est. Salut Eden, tu vas bien? Voilà. Toute personne juive qui vote pour Zohran Mamdani est une personne stupide. Comme ça, c'est très clair. A écrit le président américain sur son réseau, jugeant que le grand favori de l'élection haïssait les juifs. Voilà. Il te va mal, mon Trump, là? Ouais, je l'ai fait un peu à l'impro, là. Assez content. Vainqueur surprise. Merci, Lingard. De la primaire démocrate en juin, parce qu'aux États-Unis, vous avez des primaires souvent avant les élections. Au début, Mamdani, il avait 1% des intentions de vote. Vainqueur surprise de la primaire démocrate en juin, Mamdani n'a jamais depuis quitté la tête des sondages, il est monté très très fort. Mais après le retrait de la course du maire sortant, Eric Adams, qui avait également appelé à le battre en ralliant Andrew Cuomo, c'était tous contre lui, quoi. Voilà. Alors il a un parcours particulier, il est né en Ouganda, de parents indiens, hein, qui travaillaient à l'époque en Afrique. Zohran Mamdani, c'est pour ça qu'il ne veut pas être élu président des États-Unis d'ailleurs, hein. Il n'est pas né sur le sol américain. Mais ça n'empêche pas d'être élu maire de New York. Il est membre du mouvement des socialistes démocrates d'Amérique. Il a fait de la lutte contre la vie chère le cœur de sa campagne. Hier, on s'est penché sur le pourquoi il était si haut dans les sondages et on s'est rendu compte qu'a priori, sa campagne contre la vie chère à New York, et Dieu sait si à New York, la vie est extrêmement chère, avait fait mouche. Voilà. Trump. Il y a Papy Kenny qui dit Trump a déclaré il y a quelques mois, les gens intelligents ne m'aiment pas. Joli coup dans le dos de ses supporters. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est très drôle. Mais c'est très drôle. C'est très très drôle. Donc il a fait de la lutte contre la vie chère le cœur de sa campagne. Et manifestement, ça a fait mouche. S'il est caricaturé en communiste par Donald Trump, c'est que Donald Trump, c'est quand même l'ami de la finesse. Merci Opto2A, merci. Ses propositions, donc encadrement d'une partie des loyers à New York, bus gratuit, crèche gratuite, relèvent plutôt de la social-démocratie, le communisme, la propriété collective des moyens de production pour revenir à la base, dans la base, dans la base du marxisme. On en est quand même très très loin. C'est comme Pascal Praud qui dit que les gens intelligents votent à gauche. Non. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non, 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 là, je vérifie. Non, je vous crois pas. Pascal Praud. Non, je vous crois pas. Les gens intelligents. Non, c'est pas vrai. Je vous crois tellement pas. Là, vous inventez, là. Là, vous inventez, c'est pas possible. Pascal Praud a dit sur Europe 1 que les gens intelligents votent à gauche. Non, c'est une blague. Non, non, je vous crois pas. Non, il a peut-être pas dit ça exactement. Non, les professions intellectuelles votent à gauche. Ça n'est pas du tout la même chose. Non, 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 non. Les professions intellectuelles votent à gauche. Ça n'est pas la même chose. Non, non, là vous avez abusé. Là, hein, non, c'est pas la même chose. Tu peux très bien faire une profession intellectuelle. Et être con comme une tanche. Hein? Hein? Tu peux avoir une profession intellectuelle, considérée comme intellectuelle, et être vraiment un gros neuneu, quoi. Et inversement, tu peux faire un travail qui n'est pas considéré comme intellectuel, un travail manuel, un travail artisanal, et être un génie, quoi. Et être quelqu'un d'extrêmement brillant. Hein? Donc, pardon, je n'ai pas une immense sympathie pour les médias sur lesquels travaille M. Pro, mais ne lui faisons pas dire ce qu'il n'a pas dit, quoi. On revient à Mamdani. Voilà. Accompagné de son épouse qui est illustratrice, le candidat démocrate a voté dans le Queens, blablabla, nous sommes sur le point d'écrire l'histoire, blablabla, blablabla. Très populaire auprès des jeunes, Zohran Mamdani a également ramené à lui de nombreuses personnes qui s'étaient éloignées de la politique, et ça c'est intéressant, puisque moi c'est ce que je veux faire en 2027. hein, des électeurs frustrés par le statu quo en quête de nouvelles personnalités. Moi, c'est mon pari pour 2027, d'être élu par les jeunes. D'être élu par les jeunes. Voilà. Je fais le pari de la jeunesse. Je fais le pari de la jeunesse. Comme Mme Dany. Voilà. Voilà. Puis moi aussi, je vais mettre les bus gratuits partout. Moi aussi, je vais mettre les crèches gratuites. Moi aussi, je vais encadrer bien les loyers, tout ça. Je vais faire pareil. Signe de l'engouement pour le scrutin dans ce bastion démocrate qu'est New York, à la base, près de 1,75 million d'électeurs avaient voté à 18h, soit la participation la plus importante depuis des décennies. Des décennies. Ouais, donc les gens ont beaucoup voté. Donc c'est pas un vote par défaut. C'est un peu... Merci Ribens, merci Opto2A. Merci Sunshine, merci Eloy. Donc les gens ont voté. Voilà. Alors une des craintes qui a été évoquée ces derniers jours, mais dont je ne vous ai pas parlé encore, on va voir ce qui va se passer, c'est que l'armée soit déployée à New York, puisque vous savez que le président Trump, je voudrais que ce soit une blague, et ça n'en est pas une, a déployé l'armée, la garde républicaine, si je ne dis pas de bêtises, dans plusieurs villes démocrates, au motif que la criminalité y serait trop importante. Voilà. Sauf qu'il l'a fait quasiment que dans des villes démocrates. Donc la question est de savoir si Trump va faire la même chose à New York. Tandis que le, bah, c'est pas moi qui le dis, c'est le Monde. Tandis que le président républicain a déployé l'armée dans plusieurs bastions démocrates, à Portland, à Chicago, à Washington, D.C., et yes, Zohran Mamdani a promis de s'opposer farouchement à sa politique anti-immigration et à sa guerre judiciaire contre ses ennemis. J'ai dit la garde républicaine? C'est la garde nationale. Merci Langstrand. Contre ses ennemis politiques. Voilà. Alors, à noter qu'au sein même du Parti démocrate, Zohran Mamdani ne fait pas l'unanimité, considéré comme trop à gauche. Plusieurs figures, notamment le chef des sénateurs démocrates, Chuck Schumer, ne le soutiennent pas publiquement. Le soutien d'Obama, c'était vraiment du bout des lèvres également. Quant au leader des démocrates à la Chambre des représentants, s'il s'est finalement prononcé pour Mamdani, il a affirmé qu'il ne considérait pas comme l'avenir de leur camp, du camp démocrate. Hein. Un Mamdani qui est considéré comme trop à gauche, trop représentant de l'aile gauche du Parti démocrate, hein, pour les principaux responsables démocrates. En même temps, les démocrates, ils se cherchent bien. Hein. Voilà. Après, il y a plusieurs autres victoires locales des démocrates hier. Je ne vous dis pas tout. C'est intéressant. Donc, on a un premier article qui donne un petit peu toutes les infos là. Le mec gagne de loin et les démocrates disent non, c'est pas le futur. Me dit Tigre. Oui, parce que New York n'est pas les États-Unis, ne sont pas les États-Unis non plus. C'est quand même, c'est presque un pays dans le pays, New York. Hein. Donc, c'est pas parce que les New-Yorkais ont voté Mamdani que les Américains et les Américaines, qui sont parfois très éloignés du profil des New-Yorkais, pourraient voter pour un candidat aussi à gauche. Deux choses différentes, quoi. Guinness me dit, ben, Paris n'est pas la France, par exemple, et oui. À Paris, le vote aux élections nationales, le vote parisien est assez particulier aussi. Historiquement, l'extrême droite, le Front National hier et le Rassemblement National aujourd'hui, fait de tout petits scores à Paris intramuros, par exemple. Hop, je regarde d'autres articles vite fait. Donc là, on a vu un article dans Le Monde. Là, il y a un autre article du Monde sur le même sujet. Ah, qui est plus sur le programme. C'est marrant, il ne m'a pas connecté là. C'est rigolo. Ok. Non, parce qu'en fait, on est sur Internet, c'est pour ça que le sommaire n'est pas visible, mais vous allez le retrouver dans un instant. Ok. Ben, j'ai bien envie de me connecter quand même à cet article pour... qu'on se penche un petit peu sur le programme, ok? Donc je vous mets ça, je vous montre pas mes codes quand même. Hop, je me connecte, ok? un programme plus socialiste que nos socialistes ici, Sam. Que le PS d'aujourd'hui, peut-être, ouais. Ouais. Ah bah si, je l'ai, l'article. Ah si, je l'ai. Je vous le mets. Salut, Captain Spatule. Alors, fais voir. Alors, en fait, non, c'était pas une OP. C'était pas imposé, Captain Spatule. Et je suis pas au courant de cette histoire. En fait, c'est Choachin qui a pop dans mon chat un soir alors que je jouais tout seul à Battlefield. Excusez-moi, je parle de Battlefield. J'ai une question de Captain Spatule sur Twitch qui est assez intéressante. Et qui m'a dit, tiens, viens Sam, je t'ai fait une petite. Je t'ai préparé une petite 5-stack. 5-stack ou 4-stack, je sais pas, on joue à combien sur Battlefield? Viens jouer avec nous. Et donc, voilà. C'est à 4? Voilà. Et donc, ben, comme j'aime beaucoup Cho, en squad, voilà. Et comme j'aime beaucoup Cho, je suis. Voilà. Et j'ai découvert donc. Et donc, il y avait Cho, et puis il y avait Sky Rose, et un autre garçon très sympa. Et en fait, je connaissais pas du tout. Voilà. Et on a joué ensemble. Voilà. Mais je ne sais pas ce dont tu me parles, je ne suis pas au courant. Et c'est. Pardon, c'est quoi un scammer? C'est quoi un scammer? Klamakin me dit, c'est pas un mauvais bouge en vrai. C'est quoi un. Vive le Lord me dit, c'est pas un mauvais sky. C'est quoi un. C'est quoi un arnaqueur? Ah ouais? Mais à quel niveau? C'est intéressant. Scam, hein, ok. Mais à quel niveau alors? Parlons-en, hein, moi je suis là pour discuter, moi je suis open. Parce que quelqu'un, très gentiment d'ailleurs, pas du tout de façon agressive, me dit, ah, je suis bizarre que tu te sois affiché avec Sky Rose. Non, Sky Rose, je prononce bien. Ah oh, putain, je suis fatigué ce matin. Ouais, Sky Rose. Il lui est reproché des OP pour un jeu mobile fake. C'était assez courant il y a longtemps. Ok, d'accord, ok. On dit boug. Ah, ok. Merci. Vous abusez car il a fait une pub pour un jeu de merde et ça y est, c'est un scammer. Ok, je vois le débat. Ok. C'est une collab qu'il a fait avec un jeu mobile. Sugar me le confirme, je crois que c'est à cause d'une pub pour un jeu mobile Border. Ok. Bon, il s'est raté sur une OP, c'est ça? Une fois. Ok. Ouais. Si c'est une fois, hein, tu vois. Hein. C'est pas un scammer, me dit Piwawa, ça arrive de rater une OP. Il est là depuis 10 ans. Bon. Voilà, il n'y a pas mort d'homme. Bon, il s'est raté sur une OP. Bon, alors ça en fait pas quelqu'un de d'infréquentable. En tout cas, en live, il a été super sympa. Hein? Voilà. Mais bon. La question était posée, en plus elle était posée de façon non agressive par la personne, donc j'ai tenu à y répondre. Voilà. Puis ça m'a permis de gratter le sujet parce que j'avais vu passer un commentaire que j'avais pas compris. Il a fait une pub sans tester le jeu avant, il s'est excusé, il a fait retirer la pub, faut pas abuser. Ok. Écoutez, ça m'a l'air assez fair. Hein? Il s'est excusé en plus? Bon, ça m'a l'air assez fair. Ok, super. Ouais, mais merci de m'avoir informé du sujet. Ok. Donc, pardon, je reviens à mon article. Ici, je vous le remets sur TikTok également. Voilà, hop. Donc, le deuxième article du Monde sur le sujet, peut-être sur le fond, sur le programme de Monsieur Mamdani. Et hop là, non, c'est ici. Voilà. Alors, tac. Donc, Zoran Mamdani devient le plus jeune maire de l'histoire de New York, le premier socialiste revendiqué. Voilà. Et le premier musulman. L'élection, là on va se pencher plutôt sur son programme et comprendre pourquoi ce programme a fait mouche, a séduit les New-Yorkais, les New-Yorkaises. L'élection du candidat démocrate de 34 ans, moi j'en reviens pas, c'est tellement jeune, à la tête de la capitale financière de la planète, New York. Force Stacy. Oui, spéciale dédicace pour Monsieur Oliver Joseph. Voilà, et pensée pour ton grand-père Stacy. Consacre surtout une ligne politique, réduction du coût de la vie, taxation des plus riches, ce qui fait écho à un débat que nous avons en France également. opposition totale à Trump. Voilà ce qui a séduit une majorité de New-Yorkais, de New-Yorkaises. C'est lui, c'est le monsieur-là. New York vient d'assister à l'une des plus incroyables conquêtes électorales de l'histoire politique américaine. Hein ? C'est pas mal. Voilà. Et quoi, Vic O'Cod a raison et me dit, et socialiste là-bas, pour eux, ça sonne comme communiste. Hein ? Donc c'est vraiment impressionnant qu'il ait pu être élu. Oui, alors encore une fois, c'est New York. Zohran Mamdani, un candidat démocrate socialiste d'après 34 ans, totalement inconnu il y a encore un an. C'est vrai ça. A remporté l'élection municipale de la plus grande ville des États-Unis. C'est fou. Avec 50,4% des voix, il devance largement Andrew Cuomo, l'ancien gouverneur démocrate de l'État qui s'est présenté en indépendant, 41,6% des votes, et le républicain Curtis Lewa qui était un peu dans les choux, hein, 7%. Merci Captain Spatule. Ouais, tu vois. Bah tu vois, on a eu ce débat. Mais tout va bien pour moi. Le futur est entre nos mains, mes amis, nous avons renversé une dynastie politique, a-t-il lancé. Nous respirons l'air d'une cité qui vient de renaître. Zohran Mamdani qui a fait la dénonciation des élites politiques de la ville et de la figure du milliardaire qui achète les élections, l'un des carburants principaux d'une campagne aux accents dégagistes. C'est hyper intéressant. Sa victoire s'inscrit dans une soirée faste pour les démocrates, il y a eu d'autres victoires, ok. Moi ce qui m'intéresse c'est son programme, et notamment ce qu'il veut faire en termes de fiscalité des plus riches. Je pense qu'il y a des infos dans l'article. Donc à 34 ans, il devient le plus jeune maire de l'histoire de New York, le premier socialiste revendiqué, le premier musulman. Mais ces éléments mis bout à bout ne suffisent pas pour faire le tour de ce phénomène qui, en quelques mois, a redynamisé le camp progressiste à New York, alors que son adversaire, M. Cuomo, recevait le soutien financier colossal de plusieurs milliardaires. Je vois des messages tellement à côté de la plaque. Le gauche. Attendez. Je vous... Juste pour le plaisir, je vous lis le message de Terp N. Dramatique, cette élection d'un musulman pro quoi, il manque un mot, pro quelque chose. Pro Ramas, Ramas R-A-M-A-2-S-E. C'est une vanne, c'est un compte troll, c'est une vanne. C'est un sketch. C'est un sketch. C'est un sketch, je pense que c'est un sketch. Ramas, R-A-M-A-2-S, comme dans le sketch. Et vous, vous soutenez Ramas? Vous soutenez Ramas? Tu écris Ramas, R-A... Oh, c'est, j'adore. Donc je vous lis le message et je suis allé voir l'historique, c'est pas une vanne, c'est pas un compte troll, c'est quelqu'un qui le pense vraiment. Donc je vous relis le débat. Dramatique cette élection d'un musulman pro Ramas, donc Ramas... R-A-M-A-2-S-E, à la tête d'une ville ultra symbolique du monde occidental, le gauchisme est en train de nous tuer. Et ça n'est pas un contrôle, c'est vraiment quelqu'un qui le pense. Ok, ben, merci beaucoup pour ce moment. Il est bon de rire aussi. Merci pour cette séquence. Merci à toi. Ah, vous allez me faire clamser en direct avec vos conneries. Ouais, je pensais que c'était une vanne en fait, moi. Et non, c'était, je suis allé voir, il y avait un truc sur Brigitte Macron quelques jours plus tôt qui n'était pas piqué des hannetons, qui était du même niveau. Oh putain, vous êtes cons quand même. Donc, je reprends. Alors que son adversaire recevait le soutien financier colossal de plusieurs milliardaires, le candidat démocrate crée un vaste mouvement de volontaires prêts à faire du porte-à-porte, 7 jours sur 7. Voilà. Il a remercié longuement ses partisans, mardi soir, notamment les plus jeunes. Mamdani, qui s'est distingué par une créativité sans limite dans sa campagne sur les réseaux sociaux, qui fera école, à n'en pas douter, aux élections de mi-mandat dans un an. Les réseaux sociaux. Imaginons un candidat qui, en 2027, mise toute sa campagne ou une grosse partie de sa campagne sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Twitch, sur Insta. Cette ascension irrésistible ne doit pas faire oublier la réalité des chiffres. Zohran Mamdani l'emporte en atteignant tout juste la barre des 50% et doit aussi en partie sa victoire à la dispersion des voix, hein, avec trois candidats, Il a aussi bénéficié d'un contexte favorable, puisque le maire démocrate sortant, Eric Abnas, avait dû renoncer à se présenter plombé par les accusations de corruption qu'il dément. Voilà. Andrew Cuomo a démissionné, lui, de son poste de gouverneur après des accusations et harcèlement sexuel de la part de 12 femmes. Il n'y a rien qui va. Oui, il faut dire... Oui, donc ses opposants étaient un peu affaiblis. Qu'il dément, qu'il dément. 12. Bah, sûrement, je ne suis pas allé voir la défense de M. Cuomo, mais c'était sûrement un complot. Hein. C'était sûrement un complot. Ils sont très forts. Et c'est... Voilà. Donc oui, ses adversaires étaient un peu affaiblis, quoi. Oui. Oui, je suis d'accord avec toi. Cuomo est un peu à la ramasse. Je suis assez d'accord avec toi. Voilà. Il n'empêche, une fois qu'on a dit tout ça, la victoire de M. Mamdani sera lue aux États-Unis comme celle d'une ligne politique. Le candidat démocrate a focalisé toute sa campagne sur la question du coût de la vie. Dans une ville devenue inabordable pour une grande partie de ses habitants. New York, ça a toujours été cher, mais c'est encore plus cher qu'avant. Quoi. C'est plus cher que cher. Le programme de M. Mamdani se résume à quelques propositions simples, simplistes selon ses adversaires. Geler les loyers des appartements réglementés. Rendre les bus gratuits. Les faire rouler plus vite aussi, en termes de circulation, prendre des mesures pour qu'ils ne soient pas bloqués tout le temps, pour que les gens puissent arriver au boulot à l'heure. Quoi. Créer un système de garde d'enfants universel. Ouvrir les épiceries municipales pour faire baisser les prix de l'alimentation. Voilà. Exit en revanche les questions de diversité, d'identité, de genre. On est vraiment sur le pouvoir d'achat, on est vraiment sur la vie quotidienne, qui ne sont désormais... évoqué qu'à la marge. Idem pour la crise climatique, absence de ces meetings. Voilà. C'est intéressant, hein. Voilà. Alors, Zoran Mamdani met toute son énergie à ne parler que du quotidien des habitants avec une ligne sociale assumée. Lucas Velucki me donne une info de dernière minute qui vient tout juste de tomber. Priorité au direct, comme on dit sur les chaînes d'info. Flash info, 2 points. On nous apprend qu'un certain Samuel E. aurait engagé l'ancien directeur de campagne de Mamdani pour, je cite, « penser l'avenir ». Breaking news. Breaking news. Voilà. Les deux autres sujets qui se feraient un chemin dans ces discours sont les questions de l'immigration et de la bande de Gaza. Monsieur Mamdani défend le statut de ville-refuge pour les migrants de New York. Voilà. Alors que Trump a boosté les moyens de la police de l'immigration, de l'ICE, vous le savez, dont les actions sont très polémiques. Quant à ses positions pro-palestiniennes, elles lui valent nombre d'attaques de ses adversaires dans une ville qui compte la première communauté juive du monde. Donc, ça aussi, c'est intéressant. C'est un maire, un élu pro-palestinien, voilà, qui est élu dans une ville qui compte la première communauté juive du monde. En sachant que de plus en plus de juifs américains sont extrêmement critiques vis-à-vis de Netanyahou. Mais elles lui ont aussi valu beaucoup d'appui dans une cité très diverse où le soutien au peuple palestinien est largement partagé. Voilà. Après avoir regardé la course de loin et affublé M. Mamdani du surnom de communiste, qui est une insulte aux États-Unis, tous les juifs ne sont pas sionistes. Bien sûr, Lost in the Process. On le rappelle régulièrement sur cette chaîne. Même si Netanyahou est un dangereux personnage. Trump est entré dans l'arène lundi soir pour appeler très directement à voter en faveur d'Andrew Cuomo. Voilà. Désavouant d'ailleurs le candidat républicain au passage. Il a également menacé les habitants de New York. Alors ça, c'est du Trump, ça. Trump a menacé les habitants de New York de couper les fonds fédéraux s'il venait à élire Zoran Mamdani. Le niveau de l'intervention. Si vous votez Mamdani, hein, je vais peut-être couper les fonds fédéraux. Ouais, c'est incroyable. Mamdani, d'ailleurs, s'est adressé à lui mardi soir. Voilà, Donald Trump, je sais que tu regardes. J'ai 3 mots pour toi. Monte le son. Ouais, ils vont beaucoup se parler. Ils vont beaucoup se parler. Ça va être intéressant. Alors, Le monde nous dit maintenant le plus dur commence. Le plus dur commence maintenant pour Mamdani qui va devoir démontrer que ses engagements de campagne ne relèvent pas du populisme, hein, que ce sont des promesses qui vont pouvoir être tenues. Alors, notamment, moi je me posais la question, de quelle manière va-t-il pouvoir augmenter les impôts pour les plus riches? Est-ce que c'est une prérogative de municipale, ça? Attends, j'ai un petit plaisir. Bon, finalement, c'est pas si drôle. Le maire de New York n'a pas toutes les cartes en main pour appliquer sa politique et dépend notamment de l'État pour augmenter les impôts, bah oui. Il a promis de financer son programme en taxant davantage les entreprises et les plus aisées. Il va devoir convaincre la gouverneure de l'État, qui est une démocrate, plus centriste que lui, de le suivre sur le sujet. Cette dernière vise en 2026 une réélection compliquée et aura besoin de Mamdani. Ok. Ah, c'est une question que je me pose. Dans quelle mesure il peut augmenter les impôts au niveau municipal, finalement? Oui, ils ont des aisés là-bas aussi. Ok, intéressant. Bon, bah, à suivre alors. À suivre. Merci les amis en tout cas pour ce premier sujet, c'était intéressant, mais vous étiez super dynamique dans le chat sur le sujet, là j'ai vu plein de choses, c'était top. Voilà. Donc là maintenant le sommaire réapparaît, le sommaire qui avait disparu, parce que ce matin il n'y avait pas d'article dans la presse PDF, la presse papier, donc je suis allé chercher ça sur internet. C'est intéressant, hein? Possible de stream sur YouTube aujourd'hui aussi? Vous voulez que je stream sur YouTube? Sur Twitch? Sur TikTok? Et quoi? Et sur Minitel aussi? Non mais je sais pas. Vous trouvez ça intéressant vous que je stream aussi sur YouTube? Alors on est à combien là? 1h07. Quoi sur Kick? Sur Skyblog? Sur Dailymotion? Sur Facebook? Sur Vinted? Sur Disney Channel? Hein? Sur Temu? Sur 3615 Chibrax? Sur. Hein? Ok. Sur Caramel? J'ai la ref. J'ai une adresse Caramel, moi. 1h08. Moquez-vous. Avec mon modem 33K et mon abonnement AOL. Allez, je vous mets la petite flèche parce que je sais que sinon vous allez râler. La flèche, la flèche! On va parler de la libération des deux otages français en Iran. Il y a un public différent sur YouTube, vous pensez qu'il faut que j'aille sur YouTube? Faut que je triple stream? Faut que je triple stream? Mais mais ça va les intéresser sur YouTube? Qu'on parle du Hamas? Non, mais est-ce que vous soutenez le Hamas? Salut, Boomerang, bonne journée. Ok. Tu devrais aussi mettre ça sur des sites pour adultes, tu verras, tu auras plus de sous. Ok. Sur YouTube, ça peut être bien. Ok. Etienne, est-ce que tu soutiens le Hamas? Non mais vous soutenez le Hamas? Non mais attendez, est-ce que vous soutenez le Hamas? Non mais vous le Hamas? Vous le soutenez? C'est un sketch, hein, je vous rappelle. Voilà. Défécateur, de par ma propre expérience, j'ai pas du tout la même commu sur YouTube et Twitch. C'est nettement moins bienveillant sur YouTube. Donc ça nécessiterait moins de modération. Ok. Le ramasse, vous le soutenez? Donc, alors, une bonne nouvelle, en tout cas pour ces deux personnes, hein, la libération de deux otages français qui étaient retenus depuis, dans des conditions atroces, 3 ans en Iran. Ouais. Donc c'est le Parisien qui consacre le dossier le plus important ce matin, les otages français libérés, Jacques Paris, comme la ville, et Cécile Kohler, détenues depuis mai 2022, sont sorties de prison ce mardi soir. Récit de ce qui s'est joué. On va lire ça. Salut Morgane de toi. Bonne journée mon ami. Un double tweet simultané, donc l'un de Macron, l'un du ministre des Affaires étrangères, Monsieur Barrot, soulagement immense, Cécile Kohler, Jacques Paris, détenus depuis 3 ans. 3 ans. En Iran, sont sortis de la prison d'Evin et sont en route pour l'ambassade de France à Téhéran. Ok, donc ça semble ok quoi. Tous les deux, Cécile Kohler, Jacques Paris, détenus depuis 3 ans en Iran. Ok. Et les deux, désormais ex-otages, sont en sécurité à la résidence de France. Ok. Voilà. Donc, je vous passe les tout petits détails, je vais aller sur l'essentiel. Donc, libération à Téhéran de Cécile Kohler, 40 ans, qui est une enseignante, et Jacques Paris, 72 ans, au bout de 3 ans et demi d'emprisonnement dans d'atroces conditions dans les geôles iraniennes. Deux otages d'État, comme le qualifiait la France, du régime des Mollahs, coutumiers de telles détentions arbitraires d'occidentaux, français notamment, pour... Alors ça, c'est... Parce que c'est la version de la France, et c'est aussi la version du Parisien, pour servir de monnaie d'échange dans des dossiers juridiques, judiciaires ou politiques. Pourquoi ces deux Français ont été détenus 3 ans et demi, selon la diplomatie française, et c'est aussi ce que nous explique le Parisien, c'était des otages d'État qui n'avaient rien à se reprocher, mais qui, détenus par l'Iran, pouvaient servir de monnaie d'échange dans d'autres dossiers, une espèce de diplomatie des otages, quoi. Du côté iranien, on va y revenir, on disait que c'était des espions. J'essaie de trouver les informations les plus intéressantes sur le sujet. Je pense que c'est dans le deuxième article. Voilà. Donc Jacques Paris, 72 ans, et sa compagne Cécile Kohler, 41 ans, sont libérés. Voilà. Pour leurs familles et leurs amis, moi je pense d'abord à ça, hein. Une saga faite d'angoisse, d'espoir et de cruelles désillusions prend fin. La justice iranienne avait condamné le couple à 20 et 17 ans de prison en octobre dernier. Téhéran, en conflit ouvert avec la France et l'Occident en général, les accusait tous les deux d'espionnage au profit des services de renseignement français et israéliens. Ce dénouement intervient alors que les proches des deux otages redoutaient de plus en plus un drame. Voilà. Cécile Kohler avait déclaré à sa famille lors d'une conversation qu'elle ne pourrait pas tenir quelques semaines de plus dans ces conditions. Anne-Laure Paris, la fille de Jacques Paris, s'était fait aussi le porte-parole de l'épuisement de son père, de son désespoir, de sa détresse, de sa colère. Son père, témoigne-t-elle aux Parisiens, lui a raconté sa vie à l'isolement, ses 3 sorties par semaine, dans une fosse minuscule, les nuits à même le sol, je vois la mort en face, disait-il. Voilà. Alors, les faits de ce qu'on sait. Les faits. Le cauchemar s'est abattu sur eux au printemps 2022. Le régime des Mollahs annonce avoir arrêté l'enseignante et son compagnon, ancien professeur de mathématiques, le 7 mai. Tous deux sont arrivés. Quelqu'un me disait, mais qu'est-ce qu'ils font en Iran? Dans la République islamique, 10 jours plus tôt, munis de visas de touristes. Le ministère des Renseignements a surveillé les deux personnes lors de réunions d'organisation, de coordination avec certaines personnes qui se considèrent comme des membres du syndicat des enseignants, accuse la télévision d'État iranienne. Elle aurait tenté, ajoute-t-elle, de former une sorte de manifestation pour créer des troubles. Donc accusation des médias iraniens ils auraient rencontré des syndicalistes enseignants iraniens se présentant comme tels et auraient, c'est pas très très clair, auraient tenté de former une sorte de manifestation. C'est quoi une sorte de manifestation? C'est pas trop. Pour créer des troubles. Voilà, ils sont arrêtés pour ça. Donc d'un premier temps, l'accusation du régime, c'est ouais, ils ont rencontré des gens, des syndicalistes, enfin ouais, ils auraient peut-être, c'est quoi la phrase? Tenter de former une sorte de manifestation pour créer des troubles. Bon, pff, c'est pas fou. Et c'est pas terminé. Les événements basculent quelques mois plus tard dans une vidéo retransmise en octobre sur la télé iranienne. Le couple affirme opérer pour la DGSE. Le service de renseignement extérieur français, sous un voile bleu, Cécile Kohler dit être en Iran pour préparer les conditions de la révolution et du renversement du régime iranien islamiste. Voilà. Elle et son compatriote, raconte-t-elle, devaient financer des grèves et des manifestations et même utiliser des armes pour se battre contre la police. Alors c'est marrant parce que quelques mois plus tard, Madame Kohler s'accuse de choses bien plus graves que ce que disaient même les médias officiel iranien. Bon, comme par hasard, entre-temps, ils ont été, ils ont passé quelques mois en prison. Donc, voilà, évidemment, la question c'est quelle est la réalité de cette déclaration. Non. Le Quai d'Orsay d'ailleurs a dénoncé à l'époque une mise en scène indigne, révoltante et des aveux extorqués sous la contrainte et sans fondement. Alors après, il y a la mobilisation des proches, bien sûr, pour obtenir leur liberté. Et des autorités françaises. Je crois que même étaient deux. Je crois avoir vu dans un autre article, les deux étaient syndicalistes en France. Je crois. Peut-être que le chat va me le confirmer. Voilà. Bon, puis les conditions de détention autres. Vous avez l'info ou pas? Ils sont de Granville dans la Manche. Elle a été enseignante, je crois. Quelqu'un me disait que... Dans le chat tout à l'heure, quelqu'un me disait que il avait eu... Je lis tous les messages K2L95. Oui, c'est ça. Deux syndicalistes de Force Ouvrière. Exactement. Ouais. Deux syndicalistes de Force Ouvrière. C'est ça. Et quelqu'un me disait avoir eu Madame Kohler comme enseignante tout à l'heure dans le chat. Ouais. Ok. Bon, c'est un profil un peu atypique pour les espions de la DGSE d'être des enseignants ou des ex-enseignants de Force Ouvrière, mais bon. Oui, alors le jeune homme qui faisait le tour du monde à vélo, là, il a été libéré. Il manque un sujet sur Étoile aux 12 coups de midi. Bon, on va attendre qu'il gagne déjà. Hein. Ok. Donc, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que tous les deux ont été libérés. Ok. Oui, alors les... Oui, Étoile va aux 12 coups de midi. Oui, je crois qu'il a... Je crois que s'il a tweeté, c'est parce qu'il a eu le... La production lui a dit qu'il allait jouer, quoi. Voilà. Donc, alors, la question, c'est est-ce que Étoile va gagner? Et puis, idéalement, combien de temps hein? Rappelons qu'Emilien est resté, quoi, c'est quasiment 2 ans, c'est ça? Voilà. Bon, moi, si jamais il joue, j'espère que je pourrai être dans le public pour le soutenir. Salut Spacer. Bah, le plus tôt possible en vrai, hein, j'espère. Mais je pense que c'est très compliqué pour elle en ce moment. Ok. Alors ça, c'est passionnant aussi. Je me demande toujours comment les candidats concilient leur vie pro avec le jeu. C'est intéressant, ouais. Alors, les amis, passons à cette histoire de révolte de la Gen Z et du drapeau One Piece. C'est hyper intéressant. Hop. Et on est à combien là? On est à 1h20. Vachement intéressant. C'est un sujet dont on a déjà parlé, mais là, avec un coup de projecteur sur le drapeau One Piece. 1h20. Voilà. Ah, j'ai vraiment des gros doigts. C'est pour ça que je suis nul à Valo. Ok, c'est bon. Et TikTok. Merci, exutoire. Et TikTok, je vous mets la flèche aussi. Parce que je vous aime bien. Clavier trop petit? Ouais, non, j'ai des gros doigts surtout. Je commence à me dire que ma carrière de futur champion e-sport commence à avoir du plomb dans l'aile. C'est quoi cette histoire? Alors, la révolte dans plusieurs pays, sur plusieurs continents, de la jeunesse contre des pouvoirs autoritaires, corrompus, etc. Avec des jeunes manifestants de la génération Z, de la Gen Z. On a parlé à plein de reprises. Mais là, il y a un coup de projecteur sur pourquoi ces jeunes, dans des pays extrêmement différents, utilisent le drapeau de One Piece comme l'un de leurs symboles de ralliement. C'est une tribune de Guillaume Calafat, qui est chercheur, intitulée La génération Z brandit le drapeau de One Piece pour défier les autorités. Lisons. De l'Indonésie au Maroc, des Philippines au Pérou, du Népal et de Madagascar jusqu'en France, un drapeau est aujourd'hui brandi par des jeunes manifestants du monde entier qui réclament plus de justice sociale, économique, fiscale ou politique. Donc ça, on a lu plein d'articles ces derniers mois dans cette revue de presse sur la mobilisation de la jeunesse dans des pays aussi différents que ceux qu'on vient d'évoquer, hein, Madagascar, Philippines, Népal, Pérou. Et il y en a d'autres encore, il n'y a pas que ceux-là. Dans des pays très différents, mais avec ce point commun d'une même génération et de mêmes outils, le drapeau de One Piece et une mobilisation qui s'organise par exemple énormément sur Discord. Donc le drapeau de One Piece notamment, pour ceux qui ne le savent pas, le drapeau de l'équipage du Vogue Mary, le navire du capitaine Luffy et héros de One Piece, le manga le plus vendu de l'histoire. On est dans Le Monde, page 27. La série du mangaka japonais Eiichiro Oda, lancée en 97, est toujours en cours. Hein. Elle présente la formation et les aventures d'un groupe de pirates qui sillonnent les océans en quête d'un mystérieux trésor, le One Piece. Ne le cherchez pas, parce que c'est moi qui l'ai trouvé. Les gens cherchent le One Piece alors que moi je l'ai trouvé il y a très longtemps. Le trésor, qui s'appelle pas One Piece du tout d'ailleurs. C'est pas du tout son vrai nom. Merci Jean-Christ de Batsa qui a deviné. Le One Piece en fait s'appelle Hélène. Dans chaque île et pays où il aborde, l'équipage de Luffy lutte avec ses armes, la solidarité, la ruse, mais aussi des super pouvoirs, dans la défense des opprimés, contre les injustices, la violence des autorités corrompues, affrontant un gouvernement mondial qui le poursuit sans relâche. One Piece est truffé de références au nom et à l'univers de la piraterie historique des 17e et 18e siècle. Le Vogue Mary arbore ainsi le Jolly Roger, drapeau pirate sur fond noir, avec deux tibias surmontés au premier plan d'un crâne hilar qui porte un chapeau de paille avec un ruban rouge. C'est ce drapeau que la génération Z, née à peu près au même moment que One Piece, a décidé de porter haut pour défier les autorités. Intéressant, hein? L'usage du Jolly Roger, donc ce drapeau, comme symbole de résistance, fait converger une référence culturelle générationnelle. Oui, je sais, le nom du bateau a changé, mais les gars, on n'est pas sur un article sur le manga, là. Soyez cool avec l'auteur de la tribune. Hein? Parce que vous êtes hyper spécialiste d'un sujet que. Hein? Excusez-moi, je me régale avec des messages. Ah. Et donc, référent. L'usage du Jolly Roger comme symbole de résistance fait converger une référence culturelle générationnelle, le manga, donc au succès planétaire, et une référence historique qui alimente depuis de plus de 3 siècles les imaginaires. Hein? Voilà. Donc le lien entre le drapeau de One Piece et le drapeau de la piraterie. Voilà. On pense que le drapeau des pirates est né dans les Caraïbes parmi ses frères de la côte, hyper intéressant, qui écumaient l'Atlantique, les côtes américaines du Pacifique et l'océan Indien. À l'heure des empires et des grandes compagnies maritimes des États européens, le pavillon noir, à l'époque, devenait le symbole des refus des hiérarchies et des règles imposées. À la différence des corsaires, les pirates n'agissaient pas pour le compte d'une puissance politique ou d'un État. Voilà, ils attaquent tous les navires marchands sans distinction de nation et deviennent en retour les ennemis du genre humain. Les premières attestations du drapeau pirate, merci Grande Madame, merci Jabesque, merci Ribens, merci K2L95, merci Iota, remontent à la fin du XVIIe. En 1688, vous avez un flibustier français qui décrit dans son journal un pavillon rouge avec une tête de mort dedans et deux ossements en croix au-dessus de la tête en blanc au milieu du rouge. Le rouge signalait le pas de quartier. Hein. Oh, tu casses les couilles, Terpène, là. Le syndrome du personnage principal, là. Oh là là. Allez. Pouh. C'est fou, ça, les... Ah! C'est dingue, ça. Mec, il est monté sur scène, il a pris le micro, il a dit hey, « écoutez-moi, 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 ça va, ça va, ça va. On est sur le drapeau, là. » Voilà. Le rouge signalait le pas de quartier, la promesse de mort pour quiconque résistait. Merci, Scott Butman. C'est marrant, on parle de pirates, et il y a Scorbutman qui nous sub. Or, le scorbut, c'était une maladie qui touchait notamment les équipages des navires, des bateaux, pirates et autres, à une époque où on ne savait pas qu'il fallait embarquer sur les bateaux des fruits, hein, pour les vitamines, puisque les aliments qu'on emportait pour des mois de navigation étaient des aliments séchés ou bref conservés, voilà, avec très peu de vitamines. Voilà, manque de vitamine C. Et un jour, on a compris que le scorbut venait de cette carence. Et Scorbutman vient de nous sub. Incroyable. Timing de fou. Timing de fou. Pour certains historiens, c'est cette couleur qui aurait donné son nom au Jolly Roger, du français joli rouge. Ok, le drapeau des pirates avant, il était rouge. Il était rouge. Voilà. Et en fait, en français, le joli rouge aurait donné le Jolly Roger. C'est magnifique. D'autres défendent une autre étymologie. Le Jolly Roger fait référence à l'activité de ces joyeux jolly brigands ou vauriens, rogues. Bon. Oh, j'aime bien le Jolly Rouge, moi, personnellement. À moins que ce soit encore une référence au diable Old Roger ou encore la déformation du nom d'un pirate tamoul Ali Raja. Bon. Vous choisissez votre version, quoi. Le drapeau noir était moins menaçant que le rouge et offrait la vie sauve à ceux qui se rendaient. Ah. Le drapeau rouge, c'était pas de quartier. Le drapeau noir, c'était vous allez peut-être survivre. C'est génial. Entre ces deux couleurs, les pirates jouaient de tout un répertoire graphique de la violence ou de la mort, sablier, cœur transpercé, gouttes de sang, squelette, sabre. Comme dans One Piece, chaque capitaine avait ses emblèmes. Le pavillon de Steed Bonnet, qui a combattu avec le célèbre Barbe Noire, représentait simplement un crâne et deux tibias. Celui de Williams Moody, actif dans les Caraïbes en 1718, arborait un squelette perçant un cœur. Voilà. Le capitaine Bartholomew Roberts, qui a capturé plus d'une centaine de navires. Putain, la vache! Une centaine de navires! Et inspiré le personnage de Bartholomew Kuma dans One Piece, montrait un homme avec un sabre se tenant sur deux crânes. Dans les années 60, ça me fait penser que nous aussi, il faudrait qu'on ait un drapeau. Pour 2027. Pense à ça. Parce que moi, il y a un moment, je vais changer de local ici. On va aller dans plus grand. C'est pas pour tout de suite, mais. Et dans mon nouveau décor de stream, il pourrait y avoir un drapeau. Le drapeau de notre campagne pour 2027. Remarquez, l'été, j'ai déjà le drapeau de la Corse. Mais je vais pas faire campagne pour 2027 avec le drapeau corse, ça va faire bizarre. Oh my god, leak nouveau local. Ah oui. Oui, j'aimerais bien qu'on aille dans le plus grand, ouais. 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 Mais d'ici un an, quoi. Ah, mais c'est mercredi! Ah, mais il n'y a pas école! Ah, ouais. J'aime bien le mercredi pour ça. Des bons gros zizi dans le chat. Mercredi, c'est le bonheur. Le mercredi, c'est zizi! Mais oui, bien sûr. Merci, merci les jeunes d'être là, ça fait plaisir en vérité. Donc, je reviens à l'organisation politique des pirates. Non, c'était sur Twitch, Jean-Michel Combes. Non, non. Ah, c'était sûrement sur TikTok! Non, c'était sur Twitch. Mais on est très très rapide au niveau de la modération. Donc, pardon, je reprends mon propos. Hein, si vous pouvez arrêter de mettre des gros pénis dans le chat, s'il vous plaît. Voilà. Pour l'historien Marcus Rediker ou l'anthropologue David Graeber, les pirates devenaient les préfigurateurs des Lumières et les porteurs d'idées révolutionnaires avant la lettre. C'est hyper intéressant. Hein? Cette vision s'appuie en particulier sur l'histoire générale des plus fameux pirates, écrite au cours des années 1720. C'est fou. Alors évidemment, des pirates comme champions de la démocratie, on va se calmer, hein, disent les chercheurs. Hein, cette utopie est certes une fiction, les pirates participaient à la traite des esclaves, avaient leur propre hiérarchie et brutalisaient leurs victimes, quoi. Mais en tout cas, derrière ce pavillon noir des pirates se nichait l'idée d'une radicalité politique qui a pu séduire des groupes militants anarchistes. Quelqu'un me disait, le drapeau pirate, c'est aussi un des symboles de l'anarchie, ou des défenseurs des droits et des libertés fondamentales face à l'emprise croissante des États ou des grandes firmes. Le Jolly Roger, le drapeau des pirates, flotte encore bien au-delà des mers sur les t-shirts des hackers dans les stades de foot ou les forums libertaires. À ne pas confondre libertaire avec libertin. Ça n'a rien à voir. Avant que certains nous mettent encore des zizi dans le chat. Il s'est transformé en emblème de la dissidence globale, un symbole plastique comme les Luffy, plastique, pas mal, réversible, réutilisé à l'infini. Du pirate des Caraïbes au pirate informatique, un même geste persiste, défier l'ordre établi. Que le Jolly Roger arbore aujourd'hui un chapeau de paille et un large sourire ne dit donc pas qu'il a perdu sa charge subversive. Voilà pourquoi ce drapeau de Luffy de One Piece a autant de succès, puisque c'est un symbole en fait de révolte depuis très longtemps. Là, il y a Oscar qui dit « L'auteur de One Piece se base énormément sur le monde réel pour son manga. Il y a plein de parallèles. Je pense que c'est aussi pour ça que les gens utilisent ce drapeau, symbole de liberté, du renversement du gouvernement tyrannique dans One Piece. Très intéressant. La qualité du chat, en vrai, je lis des trucs vraiment intéressants, quoi. Vous êtes fort, hein? Vous êtes fort, hein? Hâte de le voir brandi en France, ce drapeau. Le drapeau du, si, je sais pas, t'as un drapeau pirate, tu as raison. Ouais. C'est surtout un manga qui a beaucoup touché les nouvelles générations. Nous dit Sugar Frog, alias le GOAT de Valorant, avec une première parution en 97 jusqu'à aujourd'hui. Il y a Vivi Création dans le chat TikTok qui vient de dire « Je sais que tu aimes le rock, le bon goût. » J'avais 11 ans. Première boom. Et oui, dans le garage. Le garage d'un ami qui s'appelait Franck, qui est devenu médecin depuis. C'est marrant parce que c'était devenu le médecin de mon papa après. Généraliste. Et dans le garage, il y avait des ballons. Il y avait des ballons. Il y avait des crocodiles Haribo. Il y avait du banga. Il y avait peut-être dans l'Oasis, ça devait pas exister. Il y avait du banga et il y avait des spots. Je me rappelle, il y avait au moins 2 ou 3 spots rouges et verts. Et il y avait une platine. Comment s'appelait ton amoureuse à cette époque? Ouh, on n'était pas là. Il n'y avait pas d'amoureuse à l'époque. Il y a eu premier slow. Il y a eu mon premier slow avec une grande qui devait avoir 1 an de plus que moi. Ouais. Waouh. Déjà ça c'était. Il y avait du tang bien sûr. Ouais. T'avais quel âge? Bah, j'avais 11 ans. Elle était beaucoup plus âgée que moi, elle était dans la classe au-dessus. Moi je devais être en 6e et je crois qu'elle était en 5e. Donc je peux te dire que le lendemain matin quand t'arrives au lycée. C'est le lycée, 6e ? Ouais. Quand t'arrives au lycée, ouais, et que tes potes commencent à savoir que t'as dansé un slow, on parle pas d'embrasser, non, de danser un slow avec. C'était collège ? Collège. C'est collège. J'avais mon bicross, mon BMX, rouge et jaune, pour aller à l'école, et que t'as dansé avec une grande de 5e, je peux te dire que ça fait pas les malins, hein. Voilà. Ouais. Le GOAT. Déjà que j'avais le bicross. Déjà, j'avais le BMX, déjà, je peux vous dire. J'arrive avec un petit dérapage contrôlé le matin devant la cour pour le garer. Déjà, je peux dire que j'étais un The King. The King. Allez, la France de Chine. Est-ce que tu mettais un petit bout de carton pour faire un bruit de mobylette? Non, je vois très bien de quoi tu parles, mais non, je savais pas ça. Ouais. Tu te la racontais pas un peu trop? Non, ça va, non. Non, j'étais vraiment un goat. J'étais vraiment un. Voilà, j'étais un peu une légende. Déjà. Eh oui. Eh oui. Alors, 1h40. Une heure quarante, la France de Shein. Nouveau sujet. Tu verras. Non, non, tu verras. Non, 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 non. Ah, je mets la flèche. Dans le living room. Excusez-moi. Non, 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 non. Hey! Alors, TikTok, je vous mets la flèche parce que je vous aime aussi pareil. Je ne fais pas de différence entre mes enfants numériques. Sommaire. N'oubliez personne. C'est la fête. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la France de Chine? Alors, la France de Chine, on en a parlé déjà longuement hier. La polémique avec l'Alliance BHV, ce grand magasin parisien qui a du mal, et du coup qui s'est associé à Shein pour essayer de ramener les clients au BHV parisien. Sauf que Shein, symbole de l'ultra fast fashion. Et toutes ces conséquences en termes de social et environnemental, ça crée beaucoup de débats, de polémiques. Et en plus, quand on s'est aperçu que sur la plateforme, là, comment on appelle ça, de Shein, on pouvait aussi, jusqu'à quelques jours, pouvoir trouver des poupées pédopornographiques, comme sur Marketplace, comme sur d'autres sites dans le passé. Voilà. Mais la Croix, aujourd'hui, va plus loin que cette polémique. Voilà. Sur cette question, pourquoi ça a autant de succès, pourquoi Chine a autant de succès en France? Voilà, la France de Chine. Voilà. Le géant de la mode jetable n'en finit plus de séduire les Français malgré l'empreinte écologique, malgré les scandales à répétition. Lisons ce dossier, puis après on en parlera tous ensemble si vous voulez bien. Ces Français séduits par l'ultra fast fashion. Le 5 novembre, donc c'est aujourd'hui, c'est le grand jour pour le spécialiste de la mode éphémère, l'ultra fast fashion, qui se caractérise par le renouvellement quotidien de ses collections à des prix cassés et son absence de normes sociales et environnementales. Merci le Studio Geek pour ce raid, c'est adorable. Voilà. Merci Alexandra. L'enseigne ouvre aujourd'hui sa première boutique physique. Physique. Pardon, je lisais un commentaire. Physique pérenne dans le monde, c'est français, mesdames et messieurs. Et oui, c'est chez nous. La première boutique physique de Chine dans le monde, c'est en France, mesdames et messieurs. C'est la France. C'est français. Voilà. Au sixième étage du BHV, l'historique grand magasin parisien. Bon, pas de quoi être fier, me dit Alex. Oui, c'est vrai que c'est un peu problématique. Voilà pourquoi on en parle tant. Voilà pourquoi on en parle tant. Les scandales n'ont pourtant de cesse d'éclabousser cette marque et d'être dénoncés par toute la classe politique, comme par les associations de défense des droits humains et de l'environnement. Dernière en date, un signalement le 1er novembre de la répression des fraudes pour la vente sur le site de poupées sexuelles à apparence infantile. Il n'y a rien qui va dans cette phrase. Qu'importe les polémiques, Chine est un bulldozer en France, aujourd'hui le plus gros marché européen du groupe, désormais domicilié à Singapour. La France, c'est le plus gros marché européen du groupe. Donc non seulement en France, on achète du Chine, non seulement en France, on est le premier magasin physique au monde de Chine, mais on est les premiers clients européens de Chine. Ouais. D'où le dossier de la Croix. En 2024, elle est devenue l'enseigne de mode où les Français ont dépensé le plus d'argent. Le plus d'argent. Salut l'étoile de Laurie. Au total, 23 millions de clients revendiqués, dont deux tiers âgés de 18 à 35 ans, majoritairement des femmes, pour un panier moyen de 30 euros. Voilà. Habitant du Maine-et-Loire, Alexandra semble incarner le profil type de cette clientèle. La jeune maman de 27 ans raconte comment, une fois par mois, installée sur son canapé, son loulou d'un an dans les bras, elle s'adonne à son shopping en ligne. Jeans, pulls, accessoires pour mon bébé, je dépense environ 150 euros pour une vingtaine d'articles, détaille-t-elle. Donc c'est 150 euros par mois, enjouée par la profusion de produits disponibles. En termes de prix, Shein est imbattable, dit-elle. Récemment, Alexandra a déguisé son fils pour Halloween, un costume de fausse citrouille, une guirlande d'automne, une tapisserie de maison hantée, 12 euros. Le lendemain, la jeune femme a tout remballé dans un colis pour les réexpédier par la poste. Quoi ? C'est super simple et gratuit pour se faire rembourser. Pourquoi s'en priver ? Il vérifie pas. Ah oui, donc elle redécore toute la maison Halloween et puis elle renvoie direct. Voilà. Alors en termes de CO2, d'environnement, c'est juste une catastrophe, mais... Ouais. Avant de se justifier, elle se justifie. Voilà. J'achète beaucoup, c'est sûr, mais je renvoie aussi pour que ce soit réutilisé par d'autres. Ah oui, non ! Non, non, c'est pas du tout. Oui, c'est... Ah oui, elle renvoie aussi pour que ce soit réutilisé par d'autres. Ah non, en fait. Ah non, pardon. Ça n'est pas... Ça n'est pas contre l'environnement. C'est pour l'environnement. C'est... c'est pour que ce produit puisse être réutilisé par d'autres. Merci, madame. Merci beaucoup. Rien n'est moins sûr. A écrit Lacroix, si l'entreprise assure que les vêtements renvoyés sont revendus en Europe pour 90% d'entre eux, plusieurs enquêtes ont démontré exactement l'inverse. En suivant des articles avec des balises GPS, le média suédois Aftonbladet a notamment dévoilé que les tonnes de vêtements finissaient brûlées dans le désert d'Atacama au Chili. Voilà. Et là, Alexandra, elle est en PLS parce qu'elle pensait justement faire une bonne action pour l'environnement. La France de Shein est très similaire à la France d'Action, le géant du hard discount, néerlandais, observe Bleumen Fleckan, journaliste e-commerce chez LSA, qui est un métier spécialisé dans la consommation. Si aujourd'hui aucune étude n'existe sur le profil socio-économique des acheteurs, les premiers critères d'achat sont clairement les prix bas et l'opulence de choix, poursuit la journaliste. Hein, selon qui, derrière, Shein se dessine une France de la périphérie. Récemment, une étude de la presse spécialisée a montré que la proportion de clients de Chine dans les territoires ruraux tels que le Centre-Val de Loire, la Bourgogne-Franche-Comté ou le Grand Est est deux fois plus élevée que chez son concurrent espagnol Zara. Voilà. Une stratégie assumée par Chine, 95% de nos clients vivent en dehors des métropoles, des grandes villes de Paris, Lyon et Marseille. Chine prospère là où les entreprises, où les vitrines meurent, où il y a moins de commerce, quoi. Comme en témoigne Clémence, qui habite à Orléans, qui a 24 ans, elle assure être parfaitement au courant de la réputation sulfureuse de Chine, mais impossible de boycotter le géant chinois pour autant. Je préfère faire les boutiques, discuter avec les vendeuses, mais le choix est restreint par ici, même dans le centre-ville d'Orléans. Faire 30 minutes de voiture et revenir bredouille, c'est lassant, dit-elle. Une étude sur l'achat de vêtements et l'accès à la mode des Français révèle que 27% des Français rencontrent des difficultés pour accéder. Merci Skyblast, merci Yann. Merci Ina, merci mon pote courtier, merci Agent 47. Pour accéder à quoi ? Pour accéder à des magasins de vêtements à proximité de leur domicile. C'est dans cette faille que Shein s'engouffre. Quand j'ouvre l'application, tout est dispo en trois clics à des prix ridicules. Évidemment, c'est tentant, dit Clémence. Elle est consciente de ses contradictions, elle finit par passer commande, comme il y a quelques semaines, pour refaire sa garde-robe avant l'automne. S'il y a moins de boutiques, c'est aussi de la faute de Shein, ils écrasent peut-être moins la concurrence. Plus jeune, j'allais chez Jennifer, mais ça n'existe plus, dit-elle. Merci Eragoun, merci de ton soutien. Voilà. Il y a Evive Zorglob qui dit, mais les gens se cherchent des excuses. Entre 2004 et 2024, donc sur 20 ans, le taux de vacances moyen des magasins dans les centres-villes a doublé pour atteindre plus de 10%. Vous connaissez ça, c'est les vitrines qui restent vides là, dans plus en plus de localités. Des prises qui s'est accélérée après la pandémie de Covid. Et au même moment, Chine explosait. Explosait. Pour conquérir le marché, l'entreprise chinoise s'est appuyée sur la génération Z, qui représente 48% de son chiffre d'affaires. Donc ce sont les gens nés entre 1997 et 2012. Élevée avec un smartphone dans les mains, elle est la cible privilégiée de la mode algorithmique, développé par Chine. L'entreprise est la championne de la récolte de données comportementales. Elle pratique ensuite un marketing ultra agressif pour déclencher la pulsion d'achat des utilisateurs. Je suis addict à la mode. Et Chine l'a bien compris, dit Lola, 22 ans. Hein, sur TikTok, cette assistante commerciale a l'habitude de visionner des hauls, des butins en français, des vidéos où des influenceurs déballent leurs achats devant leur communauté. Rien de plus efficace pour lui faire sortir sa carte bancaire. Lola reconnaît fermer les yeux sur le modèle écologique insoutenable de la firme chinoise, mais espère pouvoir acheter des vêtements de meilleur standing à l'avenir. Tout le paradoxe de cette génération est là, observe une chercheuse, merci Nekbok, merci, qui s'appelle Elodie Gentina. Malgré une conscience environnementale élevée de cette jeunesse, les réseaux sociaux attisent une attirance pour les bas prix, le renouvellement constant pour rester dans la tendance. Agathe, nouveau témoignage, se réjouit, elle, d'être sortie de cette spirale. Mère célibataire d'un adolescent avec un budget restreint, elle aussi a été attirée par les prix. Mais la qualité déplorable des vêtements en synthétique qui sentent les produits chimiques et s'abîment au premier lavage, ça finit par me lasser, dit-elle. La tentation demeure, pourtant son téléphone, un panier subsiste sur l'application. Elle l'enrichit parfois d'un article par-ci, par-là, lors d'une pause cigarette, sans jamais avoir cliqué sur payer depuis 2022. Ce qui est bizarre dans cet article, c'est qu'il n'y a que des témoignages de femmes. Bon, alors après, l'article nous disait à un moment que le client moyen était plutôt une femme. Voilà. Le portrait robot, c'est les deux tiers des clients de Chine en France, c'est âgés de 18 à 35 ans, majoritairement des femmes, pour un panier de moyen de 30 ans. Mais il n'y a que des femmes, c'est bizarre, il y a bien des hommes qui achètent sur Chine. Bon. Allez, je vous lis. Vous en pensez quoi, vous? Je vous lis. Qui m'écrit, qui m'appelle là? Oui, mais je ne connais pas ces numéros, moi. Je connais pas le numéro. Qui m'appelle? Est-ce qu'il y a des urgences? Est-ce qu'il y a des urgences? Quoi? J'ai gens avec qui je travaille qui me disent à propos d'une opération pour laquelle j'ai donné mon feu vert. Suite à ton green light, nous avons donc répondu à ce brief, mais on nous indique que France Télévisions a également répondu au brief avec des activations de ta part, des spots pub dans le cadre de Questions pour un champion et 4 émissions Twitch. Est-ce que la proposition de France Télévisions est passée par toi? Non. ils sont fous les gars ou quoi? Non. Que les mecs me vantent mais me posent pas la question. Voilà. Rien qui va. Bon, on va tirer ça au clair. Mon fil WhatsApp, on dirait un chat. C'est drôle. Il y a des régies qui te vendent mais qui te posent pas la question en fait. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Ils peuvent peut-être demander, non? Avant, non? Voilà. Je vous lis. Je suis en train de vous lire. Salut poussière sa mère, joli pseudo, merci d'être là, bienvenue. Message intéressant de Ludokan qui dit: j'ai jamais acheté sur Shein ou Temu, c'est pas mon truc, mais je peux comprendre que des prix bas soient attractifs. Je pense qu'il vaut mieux éduquer le consommateur plutôt que le faire culpabiliser. On a découvert dans cet article de La Croix que le premier marché européen de Chine, c'est la France. Hein? Je pense que les consommateurs des autres pays européens ont des problèmes de pouvoir d'achat comme les Français, comme les Françaises. Voilà. Mais pourquoi n'achètent-ils pas autant que nous sur Chine? Hein? Ils sont confrontés aux mêmes problèmes. Il y a même des pays européens où le pouvoir d'achat il est même plus faible qu'en France, bien sûr. Donc il y a un sujet quand même. C'est assez intéressant. Hein, c'est pas mal ce que dit Masrai. Les autres pays européens ne sont pas aussi grands en superficie, Samuel. Et justement, ils disent que le cœur du commerce de Chine est la diagonale du vide, le manque de commerce physique. Pas mal. Il n'y a pas un politique qui a fait du pantouflage chez Chine? Si, au Smello, je crois qu'il y a un ancien élu ou ancien ministre qui effectivement bosse maintenant ou a bossé pour Chine, ouais. Parce que peut-être parce que la France a plus d'appétence pour la mode aussi, dit Nono Jim. C'est pas faux, peut-être. Oh, c'est intéressant. Le Soudan, on en a parlé lundi, ouais, Taser, ouais. Ouais. C'est affreux ce qui s'est passé au Soudan. Oui, c'est Monsieur Castaner, ouais. Alors je sais pas s'il travaille toujours. Non, il travaille plus, me dit-on, ouais. Ok. Tout à fait. Ouais, vous avez raison. Lire. Alors, il y a la solution de la fripe aussi, hein. Mais Charles Loutre nous écrit ce matin, malheureusement, comme on veut acheter des vêtements à bas prix et de qualité, avant on pouvait aller en fripe, aujourd'hui les fripes vendent parfois du Shein de seconde main. Quel enfer! Oui, il y a Vinted aussi, oui. Il y a Poussière sa mère, qui est avec nous depuis ce matin, qui nous dit: je fais de la danse de salon. J'adore ça, moi je trouve ça formidable. Le seul moyen de trouver des robes à ma taille qui peuvent répondre à certains critères est de passer par les divers sites asiatiques. Vous êtes nombreux à me dire: ouais, mais le problème c'est que dans les magasins, il n'y a pas ma taille. Moi, je suis grand, je suis une grande taille, quoi. Et sur ces sites, ben, je trouve ma taille. Voilà. Danse de salon, j'adore moi. Un jour, je vais me lancer dans une carrière de danseur, moi. Un sugar. Et là, et l'Ossa, malheureusement, les fripes, la friperie, c'est beaucoup gentrifié, me dit Kylian. Avant, on pouvait s'y habiller facilement. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. Et Framboise, donc, sur l'histoire des tailles, me dit: oui, mais il donne les mesures sur ces sites, tu peux acheter ce qui te va parfaitement. Eh ben, Onawin confirme la gentrification de la fripe. Les fripes se sont gentrifiées. Normalement, tu veux acheter un jean en seconde main, c'est 40 balles. Yveline me dit, on m'a déjà arrêté à la porte d'un magasin pour hommes, on n'a pas votre taille. Tu rentres, le mec te dit, on n'a pas votre taille. Même pas un bonjour, tant pis pour les magasins physiques. Waouh, les commerçants qui ne comprennent pas que la valeur ajoutée du commerce, c'est justement l'échange avec le client, quoi. Ça, c'est fou, ça. Je dis les commerçants, certains commerçants, pas les commerçants, hein. Heureusement, il y en a qui aiment leur métier et qui ont compris que la valeur ajoutée. Une boulangerie. Tu viens acheter une baguette. Bon. En France, on fait du bon pain. Il y a des bonnes boulangeries. Bon. Des bonnes boulangeries, t'en trouves, quoi. Bon, à Paris, il y en a partout. Boulangerie. Tu rentres. La boulangère ou le vendeur, la boulangerie, il est pas aimable. T'as pas un sourire, t'as pas un bonjour. T'as l'impression que tu déranges avec ta pauvre baguette, là. On aurait préféré que tu t'achètes un gâteau à 80 balles, quoi. Mais tu reviens pas, quoi, je veux dire. Mais enfin, je peux pas avoir juste un mini sourire, un petit bonjour avec ma baguette, quoi. Moi, j'ai une boulangerie dans mon quartier, là. J'ai plein de boulangeries dans mon quartier, plein de bonnes boulangeries. Il y en a une, parce que je tourne, j'essaye toutes. Et un jour, j'ai eu ça, comme ça. Vraiment, c'était la patronne en plus, je crois. Mais non, pas cool, pas agréable. Genre, le pauvre qui achète sa baguette, quoi. Bah, je suis jamais retourné. Alors qu'ils font du très bon pain, mais est-ce qu'on peut avoir un minimum de chaleur dans l'interaction, quoi? C'est fou, ça. Je préfère acheter un pain un peu moins bon à un boulanger sympa. Non, mais à Paris, il y a des gens très sympas à Paris. C'est pas parce que c'est Paris. Il y a des. Moi, j'ai. Dans toutes les autres boulangeries où je vais, les gens sont très gentils. Parfois, je rentre dans une boulangerie où le pain n'est pas bon, parce que les gens sont très sympas. J'achète une baguette, je la paye, puis je la laisse. Je dis non, non, c'est bon, votre pain est dégueulasse, mais je viens juste parce que ici, c'est sympa. Non, c'est pas vrai. Le fou du bus. Le fou du bus. Non, mais vraiment, vous êtes super sympa. Oui, alors après. Oui, pourquoi le modèle Chine peut séduire, peut plaire? Il y a plein de possibilités. On expliquait les histoires de taille, ribou. Je suis une femme trans, me dit ribou. Sur Chine, il n'y a que sur Chine que je trouve ma taille en chaussures, talons et en vêtements aussi. Et au moins, personne ne te regarde avec un regard réprobateur. On peut comprendre aussi, hein. Oui, et puis la rapidité d'achat, et puis c'est pratique. Oui, il y a ça aussi, il y a tout ça. Mais oui. Moi, je boycotte assez facilement, me dit Twench44, quand je ressens que ça emmerde les vendeurs. Hein, je suis peu social à première vue, mais bon, l'accueil, c'est tout ce qui reste au commerce de proximité. Ben oui. À l'heure où le commerce de proximité il est challengé non-stop par Internet. Les commerçants qui n'ont pas compris qu'un minimum d'accueil, de chaleur, un petit sourire, pas grand-chose, un bonjour. Attendez, hein, 90% des commerçants, ils le font, ils aiment leur métier et ils sont commerçants d'ailleurs pour ça, quoi. Mais il y a quand même à la marge, il y a des gens qui n'ont pas compris ce truc de base, quoi. Et notamment dans les grands magasins de distribution, là, parfois même d'électroménager, là, parfois c'est une catastrophe. Hein. Bon, j'arrête de raconter ma vie là. Allez, les AirPods interprètes. Le futur. J'ai un grand magasin d'électroménager près de chez moi là. J'en ai plusieurs, mais j'en ai un en particulier. Tu vois, moi, quand j'ai besoin d'un truc, tu vois, au début, j'y allais quoi. Tu vois, plutôt que t'acheter sur Internet. Mais les mecs, t'as l'impression que tu les fais chier. Quelle heure il est? T'as l'impression que tu les déranges quoi. T'as les vendeurs, t'arrives, ils sont en train de papoter entre eux. 2h04. Tu vois? Et donc déjà, tu te diriges vers eux, personne ne te regarde. Ils sont trois, ils discutent à la caisse. Voilà, c'est un peu les spécialistes, t'as besoin d'un conseil, quoi. Donc déjà, tu vas vers eux, il y a un pain qui va te regarder. Hein? Donc t'arrives, tu te grattes un peu la gorge, bonjour. Genre tu déranges, parce qu'on est en train de parler du match d'hier soir. Tu déranges. Et puis après, non, bon, on n'a pas. Ouais, on a la ref, mais il n'y en a plus. Bon, bah, ok, bah, je vais aller commander sur Internet alors. Enfin, waouh! Et donc, j'y vais plus. C'est une catastrophe. Mais ça existe, hein. C'est vraiment géré avec les pieds, ce genre de boutique-là. Ça vous parle, vous aussi, vous avez ça? C'est incroyable. Non, mais... Alors, TikTok, je vous mets la flèche. Incroyable, ça. Moi, je comprends pas, ça. Moi, qui suis... moi, mes parents étaient commerçants, mon papa était poissonnier. Ça, quand je vois ce genre de comportement, c'est vraiment des gros nasses, quoi. Ça, c'est... et c'est pas une fois, c'est répété, quoi. C'est toujours... Hein, de tout, bon, après, parfois, dans la même boutique, t'as des gens sympas, mais... Tu vois. Alors, AirPod. Merci MG Player, merci Nebok, merci Lenny, merci Eragoon, merci Skyblast, merci encore Yann, merci Na, merci Soulé. Let's go. Chantal, pourquoi tu me parles du Nesquik? Chantal, elle me parle du Nesquik. Alors, vos AirPods joueront bientôt les interprètes. Apple va rendre la fonctionnalité traduction en direct disponible en Europe, si je comprends bien, en décembre. J'ai pas la rêve de interprète couillère, mais ça a l'air de faire rire tout le monde. C'est quoi? J'ai l'impression que c'est quoi? C'est une rêve de Astier, ça, non? Non, c'est ça? C'est Kaamelott? Ouais, j'en étais sûr. Vous êtes vraiment des maboules. Hein. Vous êtes vraiment des maboules. Hein. J'adore. Apple va donc rendre la fonctionnalité traduction en direct disponible en décembre. Il faudra au moins un iPhone 15 Pro. Bon, bah, je pense que ça va pas le faire, là. C'est du quoi, ça? C'est quoi ça? C'est quoi mon iPod là? C'est quoi mon téléphone moi? Faut que j'aille dans les réglages. Général. Information. iPhone de Samuel. iPhone 12. Bon, je l'ai dans l'os. Donc il faudra un 15 Pro. D'accord. Pratique lors d'un séjour à l'étranger, elle performe hors ligne. Plus besoin d'enlever vos AirPods pour mieux comprendre un touriste étranger ou voyager hors de nos frontières, la fonctionnalité traduction en direct arrivera finalement en France lors d'une mise à jour en décembre. Échaudé par la législation européenne, Apple avait décidé dans un premier temps de zapper le marché européen. La firme de Cupertino reprochait à la Commission européenne de brider l'innovation avec le règlement sur les marchés numériques, le DMA, mais surtout de la forcer à mettre sa technologie à disposition des concurrents. La marque à la pomme croquée a rétropédalé et ses écouteurs sans fil best-seller joueront bien les interprètes dans les langues européennes. Plus précisément, la traduction s'invite dans les derniers modèles dévoilés lors de la dernière keynote, les AirPods Pro 3 249€, mais aussi les AirPods Pro 2 et les AirPods 4 sortis l'an dernier. Exit les autres types d'AirPods, donc c'est les derniers modèles d'AirPods. Le système de traduction utilise les microphones des écouteurs pour capter la conversation. Mais il a besoin d'une réduction active de bruit de dernière génération et de la puce H2, la fameuse puce H2, je ne sais même pas ce que c'est, dédiée à l'audio pour prémâcher le travail de l'IA. Ces porteurs en quête de traduction devront avoir installé la mise à jour d'iOS 26 sur un iPhone compatible avec Apple Intelligence, soit à partir de l'iPhone 15 Pro. Pratique lors d'un séjour à l'étranger sans connexion, la traduction performe hors ligne, il faut au préalable avoir téléchargé la langue source à traduire et la langue cible, source-cible. Hein. Direction les réglages de l'iPhone AirPod traduction, un menu de langue s'affiche, français, anglais, italien, portugais, chinois, japonais. Voilà. La fonctionnalité traduction en direct s'active en pressant les tiges des AirPods en même temps. En lançant l'application Traduire ou en configurant le bouton Action de l'iPhone comme un raccourci vers l'appli. Certains me rappellent que les Galaxy Buds le font depuis un an. C'est quoi, c'est Samsung ça? Voilà. Après, vous pouvez laisser l'appareil dans la poche. Équiper chacun d'un iPhone. Il faut que les deux aient un iPhone. Alors les Galaxy Buds le font, c'est marrant, mais c'est pas si simple à utiliser. Donc les deux doivent avoir un iPhone. Et d'écouteurs compatibles. Les deux interlocuteurs s'expriment dans leur langue d'origine. Voilà. Par exemple, français et ch'ti. Tu vois. Voilà. Et les oreillettes filtrent les bruits parasites et se concentrent sur les voix. C'était une vanne, bien sûr, ne vous fâchez pas, les ch'tis. Les données vocales captées à la volée sont ensuite transmises vers l'iPhone qui va assurer la traduction phrase par phrase et non mot par mot, sinon c'est impossible, quoi. Voilà. Si la personne en face de vous n'a pas l'équipement nécessaire, eh oui, vous pouvez toujours lui montrer sur l'écran vos mots traduits en temps réel. Ou diffuser la version audio sur les haut-parleurs du téléphone. Plusieurs logiciels de pointe entrent en action. La phrase est convertie de la voix à du texte qui est ensuite traduit sur l'iPhone. Un modèle d'IA maison se charge de vérifier la précision de l'interprétation en intégrant du contexte ou des expressions locales. Un ch'tibilout, par exemple. Voilà. Un autre logiciel text to speech transforme enfin cette phrase en voix synthétique diffusée dans les écouteurs. Voilà. Nous avions observé lors de notre test au siège d'Apple une latence de 2 à 3 secondes. 2 à 3 secondes de latence. Qui ne gêne pas la fluidité, dit le journaliste. Ou je crains des gains. Comment on dit? Je crains des gains. Des gains? Des gains. Je crains des gains. Des gains. Je parle pas ce truc-là, moi. Si la traduction vous semble un petit peu boiteuse, vous devriez bientôt avoir l'occasion de substituer au logiciel d'Apple un autre avec un IA, avec une IA concurrente et plus performante tout en conservant vos AirPods. Donc on pourra choisir un autre logiciel. Ça, c'est pas mal, ça. Pour se conformer au DMA, Apple a, durant sa fonctionnalité traduction en direct, interopérable avec d'autres applications. Merci l'Europe! Merci l'Europe! Eh oui, c'est bien. Avant de la rendre sûrement compatible avec d'autres paires d'écouteurs. Voilà, donc aujourd'hui c'est AirPod to AirPod, iPhone to iPhone, mais en fait, très vite on va pouvoir utiliser d'autres écouteurs. Voilà, enfin, c'est formidable. Alors, ça vous plaît, ça vous plaît, ça vous plaît pas, ça vous plaît, ça vous plaît pas, ça vous hype, ça vous hype pas. Voilà, ça arrive en France, dit Royce. C'est génial, me dit Scream Killer. Merci Guilux. Hein, quoi? C'est top, on adore, je trouve ça intéressant. Trop bien en vrai. Grosse hype, mais pas d'iPhone. Oh, bah ça va être possible avec bientôt, ce sera possible avec tous les téléphones. Hein. C'est fort, hâte de tester ça avec ma paire d'AirPods offerte par Samu et Célio au bingo. On a fait gagner des AirPods, c'est vrai. Salut Hugo, incroyable. Moi, je m'en fiche, j'aime bien faire l'effort d'apprendre la langue où je vais. Ouais, ça peut rapprocher les peuples, rapprocher les gens. Merci Tifoc. C'est trop bien, mais est-ce que ça risque pas de réduire encore le niveau de langue? Très bonne question de jeu artiste. Je suis partagé, me dit Wadebou. Dans 30 ans, ce sera commun de voir ça. Super pour voyager, mais je me pose la question sur nos conversations qui pourraient être enregistrées, utilisées par un tiers. C'est l'évolution logique de la techno, mais quand même. Bonjour. Ouais. Je sais pas. Ouais, c'est. J'avoue que je. Ouais. Ouais, mix dit professionnellement, c'est super en tout cas. C'est justement quand personne ne se comprend que l'échange devient magique. Julien me dit, c'est intéressant, Julien F1 me dit sur Twitch, c'est justement quand personne ne se comprend que l'échange devient magique car la communication n'est plus uniquement verbale. Communication qui n'est plus que. Tu veux dire. C'est ça, genre, quand on n'arrive pas trop à se comprendre. C'est ça? C'est ça, Julien? C'est ça dont tu veux parler? Ah, coquin va. Ok, je l'ai. Ouais. Le langage du corps. Hein? Sacré Julien. Il y a Takeshi Kovacs qui dit, il sait manier la langue, le juju. Wouhou! Le body language, le body language. Ok. Je ne veux pas de vos anecdotes, par contre. Je ne veux pas de vos anecdotes sur le sujet. Je ne veux pas entendre parler. Stop, stop. Stop les anecdotes. Je ne veux pas entendre parler de vos histoires de body language. Ok. Il devrait déjà faire le traducteur pour les bébés. Oh, t'imagines un traducteur pour bébés. Les bébés. Parce que les bébés, ils nous parlent avec quand ils pleurent, quand ils nous font les petits bruits là. Et on comprend rien, nous. Voilà. Eh ben, ce serait bien un traducteur pour bébés. Ah, ou un traducteur pour les gens bourrés, dit Bertus Lannes. Oh, ce sera le même appareil. Hein. Voilà. Caca, lait, faim, dodo, tout ça, mal, bobo, ouais. Voilà. Les animaux aussi? Je suis pas sûr, ça me ferait flipper moi de savoir ce que pense mon chien. Ah, il y a l'autre vieux là, putain. Il a de plus en plus de mal. Hein. Il fait le jeune là sur Switch, là, je sais pas comment ça s'appelle, le truc des gamins là, mais il fait pitié la vérité. Tu vois, non, je voudrais pas du tout savoir ce que mon chien pense moi. J'ai pas de chien d'ailleurs. Ouais, surtout les chats, comme dit Defecator, surtout les chats, ils jugent les chats. Les chiens, ça va, mais c'est les chats. C'est les chats surtout. Ouais. Et remarque, ça pourrait nous permettre. Putain, il me reste 10 minutes. J'ai mon taxi qui arrive. Ça pourrait nous permettre de voir confirmer la théorie du complot mondial des chats. Tu vois? Allez, oh, putain, je m'en ai passé. Il me reste 10 minutes. C'est mercredi, c'est cinéma. Let's go. Cinéma. Quelle heure il est? Boum, 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 boum. 2h16. Putain, on me harcèle le numéro de téléphone, là. J'en peux plus, j'en peux plus. Sommaire, 2h19. Il y a un nouveau Predator. Voilà, ça, c'est important, ça. Voilà, ça, c'est l'info importante de ce matin. 2h19. C'est un nouveau Predator. J'adore cette histoire. Je vais vous la raconter très vite. Ok, TikTok, la flèche. Ton numéro Aurélique? Non, mais j'ai le même numéro depuis 5, 75, 95, 200, 3 siècles. Donc du coup, tout le monde l'a, mon numéro. Du coup, tout le monde m'appelle. Mais comme je décroche jamais, ils sont pas plus avancés, quoi. Excellent. Quel pirate celui-là. Ok, c'est quoi cette histoire de film? Donc, plein de films aujourd'hui, évidemment, moi j'ai choisi Predator, parce que Predator, on aime Predator. Hein. Extraterrestre avec ses dreads qui chasse de l'alien. On aime, on les a tous vus. Hein. Predator Badlands. Voilà. Le cinéaste Dan Trachtenberg imagine sur une planète hostile la rencontre d'un prédateur avec une robot, une humanoïde, hein, qui décide de s'allier dans l'adversité. Voilà. Un blockbuster plutôt finaud, nous dit Libé. Ah, un blockbuster finaud. Hein? Alors l'histoire, je vous la résume, c'est un alien ou une alien, je sais pas trop, qui s'allie avec une humanoïde, un robot, une robote. Sauf qu'elles sont deux, c'est des jumelles robotes, ok? C'est joué par Elle Fanning pour des raisons d'économie et de budget. Elle joue les deux, les jumelles, c'est logique. Hein? Et en même temps, comme ça, les deux jumelles se ressemblent vachement. Et voilà. Et sauf que les deux jumelles sont séparées, et donc il y en a une qui s'associe avec Predator pour chercher l'autre. Impeccable. Ouais. Avec Elle Fanning, qui est une actrice incroyable. Alors nous, on va aller regarder, on va regarder le trailer vite fait. Excusez-moi, donc je tape trailer, ça c'était les formants, c'était ce qu'on a écouté tout à l'heure. Trailer. Ta voix plus pap. Non, 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 non. Trailer. Predator. Je vais vite parce que j'ai mon taxi qui arrive là. Je vais aller voir DFG. Dans le living room. Non, 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 non. Badlands. Ok, je l'ai. Predator official trailer. Ok. Bon, c'est pas la peine de mettre en français. Hein, ça va être surtout des bruits. Ok. Je vous le mets. Ok? Ça risque de faire peur, j'ai mon 2 ans à côté. Mademoiselle Neko, on éloigne les petits. Hein. C'est Predator quand même. Hein. Il y a des robots et tout. Hein. T'as bien raison. Très bonne question. On éloigne les enfants. Twitch, c'est bon? TikTok, vous l'avez? Non, vous voulez pas TikTok, je vous le mets. Elgato, pop, 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 pop. Capture de l'écran. Ok, vous l'avez. Ok, puis après on va se quitter parce que j'ai mon taxi qui arrive. Merci Yendo pour le raid, c'est adorable. Donc, Predator Badlands. Ok, c'est une humanoïde. Quelle actrice, quelle actrice.
So this is your first hunt. And you've come to the most dangerous planet in the universe.
J'aime bien, moi j'aime bien Predator, moi. J'adore, moi. After a creature that can't be killed. The definitive apex predator. I could help you. Well, good luck with your journey. Oui, à un moment il lui manque la moitié, mais va retrouver ses jambes, je crois. Here, you're not the predator. You're the prey.
You're the prey.
Ah, c'est sûr. J'aime bien moi. J'adore. We might not be alone in this hunt. J'adore. Alors moi j'ai toujours aimé Predator. Le dernier d'ailleurs, Prey, celui d'avant je crois, était plutôt sympa. Bon, je suis très bon public pour ces conneries moi. Et puis Elle Fanning, c'est une super actrice quoi. Prey, ça veut dire proie. Voilà. Les amis, voilà. On n'a pas le temps d'échanger. J'ai mon taxi qui m'emmène vers DFG. Je vous enlève tout ça. Paf. Je vous enlève le sommaire. Et paf pour vous dire au revoir. Et paf. Et paf le. Et paf le Predator. Voilà. Merci pour ce matin. C'était super. Amis de Twitch, je vous garde quelques secondes parce qu'on va faire un raid comme celui qu'on vient de recevoir de Yendo. Amis de TikTok, c'était un plaisir. Il y avait une super ambiance ce matin, vous êtes géniaux. Je vous retrouve demain matin pour la revue de presse, 9h, 9h30, 10h, ça dépend. Là, je vais voir DFG, qui est un streamer que j'aime beaucoup, avec qui que je croise pas mal en ce moment. Et puis, une sorte de canapé, exactement. Et puis, je vous retrouve demain matin sur TikTok, ok? Vous êtes formidables. Ciao, ciao, prenez soin de vous, soyez heureux, rendez les autres heureux autour de vous. Peace. C'est le mec qui se prend pour un rappeur maintenant. Voilà. Amis de Twitch, nous, on fait un raid. Alors, qui est en live dans le living room? Hey! Pardon, excusez-moi. Oh, le living room. Hey! Oh, je vois que l'ami Kenny, que j'aime beaucoup, est en live sur... le jeu dont tout le monde parle, la Ark Raiders. Le retour de Pipou Kenny sur Ark Raiders. Let's go. Kenny. Qui est un streamer que j'aime beaucoup, que vous aimez aussi beaucoup. Et si vous ne l'aimez pas, c'est parce que vous ne le connaissez pas encore. Merci les amis, c'était un plaisir. Prenez soin de vous. Hop. Et je lance le raid. Bah, il est prêt là. Il est prêt. À ce soir peut-être, ou à cet après-midi, je sais pas, pour du gaming. Je vais voir, peut-être que je dorme, puis j'ai des dossiers, je dois bosser sur des trucs. On se retrouve peut-être plus tard, je vous tiens au courant. Et au plus tard demain matin pour la revue de presse, bien sûr, as usual, comme tous les jours. Let's go! Le raid est en train de charger, il part dans 5 secondes. Je suis dans les temps, il est 27. Ça va le faire. 3, 2, 1. Merci les amis, à très vite. Ciao!
Des trucs, hein? C'était de la frappe. C'est vraiment de la frappe. On était sous Sinoche là, hein. 18 000 d'XP du coup, bah logique, hein, puisque... Ah ouais.
Oh, Samuel Etienne, merci à toi pour...